lights out. And away we go for one more time in 2012. Great start from Hamilton. What a start from Vettel. Ready ahead to Red Bull. Fernando Alonso goes around the outside of Sebastian Vettel. Has already lost places, getting caught in no man's land on the inside. Hamilton squirms away from Vettel and gets it right for the rest of challenging Sebastian Vettel. Now as we find a fourth pin on the rest of Potter towards the speed of the line. It was a cautious start for the championship unit.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, on va revenir sur toute l'actualité de votre discipline préférée. Et cette semaine, he's back, il est de retour.
Oh non, merde.
On a tout fait pour le planiser, mais on n'a pas réussi.
C'était bien PSG Barça.
C'était un très bon match. Il faut dire que je n'ai pas raté l'émission à cause de PSG Barça, mais bon, il se trouve que ça m'a permis de voir le match. Et vous, c'était bien l'émission?
C'est très bien.
Ouais, c'était mieux que d'habitude.
C'était calme.
Un vrai plaisir.
Ah oui, j'ai vu que c'était calme. D'ailleurs, je tiens à passer un message. Elder, l'espèce de gros truc qui se trouve en face de toi, avec un rond noir devant, s'appelle un micro. Tu as le droit de t'en servir. Parce que c'est moi qui ai fait le montage et pendant une heure, je me suis dit, mais ils sont trois. Et non, il y avait Elder.
Et nous ne sommes pas seuls, comme d'habitude. Cette semaine, c'est Gus Gus, vous l'avez entendu, et c'est Ben qui nous accompagne.
Bonjour.
En fait, on a juste changé Elder et je suis revenu.
Ouais.
Ça fait un remplacement à l'heure de jeu.
Ouais, enfin, Elder, il était pas vraiment là la semaine dernière, donc...
Il était subjugué par nos discussions.
Ouais, mais il s'est lâché après le ta gueule.
Oui, oui. Messieurs, comme toutes les semaines d'actualité, on va commencer par le quiz.
Et ce magnifique générique. Ah, ce magnifique jingle.
Il existe?
Ah bah toi, t'as pas écouté l'émission de la semaine dernière.
J'écoute pas les émissions, moi, j'ai fait.
Mais t'aurais dû, parce que t'aurais découvert ce magnifique jingle que vous allez écouter à nouveau pour la deuxième fois dans l'histoire du SAV.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Et donc cette semaine, messieurs, c'est moi qui reviens, donc c'est moi qui pose la question.
Il faut quand même le souligner, c'est toujours très courageux de la part de Dino de faire ça.
Oui. Non, mais surtout, c'est que la semaine dernière, ça a été très rapide et je me suis dit, il faut qu'on compense. Donc j'ai prévu une question qui soit
surtout
un peu longue.
Surtout vu la suite de l'émission.
Mais je vous dis, il y a des actus cette semaine. On dirait pas comme ça, mais
il a fallu creuser.
Et donc, messieurs, pour gagner le droit à un ta gueule ou à toute autre forme de gage, hein, ne soyons pas... Mais c'est vrai que ta gueule, c'est bien. Enfin, non, c'est pas si bien que ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, on se comprend, d'accord. Donc, la question cette semaine, c'est qu'est-ce qui représente l'équivalent de 138 pneus Pirelli P0 de Formule 1?
Circuit de Chine? Bah non.
Un mur de pneus avec 138 pneus P0.
Ça pourrait,
mais en hauteur?
Non.
En durée de vie, peut-être?
Non.
C'est une masse qui est à peu près équivalente?
Je ne sais pas, mais je ne pense pas.
Donc c'est en hauteur?
Longueur?
Non.
En longueur?
Non.
En coût?
Non.
Et... C'est quand tu les fais fondre? Oui, on aura tout essayé, comme ça.
Quand tu les utilises, quoi.
En couleur de l'arc-en-ciel?
Non. Non.
Ça représente une distance, que la distance équivalente que tu peux faire avec?
Non. C'est visuel, c'est-à-dire vous prenez 130, à peu près 138
c'est
pneus.
C'est ce qui est utilisé lors d'un week-end?
Non.
C'est genre une sculpture ou un truc dans le genre qui a été fait avec des pneus Pirelli?
Non.
C'est le nombre de spectateurs qu'il y aura à Bahreïn.
Peut-être, mais non.
C'est bizarre parce que 138, ça fait pas un nombre de trains exact.
Bah, c'est-à-dire que, voilà, c'est un calcul approximatif. Je pense sincèrement que c'est moins de 138, mais si on prend les chiffres qu'on a à notre disposition, c'est l'équivalent.
Une donnée Pirelli?
Non. Non.
C'est une donnée qui vient des équipes?
Non.
C'est quelque chose depuis le début de la saison?
C'est issu de ton cerveau fécond? En deux mots, bien sûr.
Oui. Oui, c'est un chiffre que moi j'ai calculé.
Je vais chercher à boire, les gars.
Et qui n'a aucun rapport avec Pirelli.
Ça a quand même un rapport avec la Formule 1 ou...
Oui.
Un grand, un petit...
Ça n'a pas un rapport direct avec la Formule 1. Mais voilà, on est obligé d'en parler quand on est fan de Formule 1.
Un rapport avec PSG Barça.
Non.
Donc t'as dit que c'était visuel. On met quelque part 138 pneus Pirelli et visuellement ça fait que, enfin.
Oui, je peux même vous dire, on met 138 pneus Pirelli à plat et visuellement ça représente une surface.
Une surface.
Ah, d'accord.
Un terrain de foot?
Non.
Ça doit être plus petit qu'un terrain de foot.
C'est remplir la pit lane du Grand Prix de Chine.
J'adore la question que tu dis. Plus petit qu'un terrain de foot. Je te confirme, c'est plus petit qu'un terrain de foot.
J'ai de calculer la surface tout de suite. On les met à plat sur le flanc, quoi, en fait.
Oui. Mm-hmm. Enfin, oui, sur le flanc, oui. Je peux dire, hein, ça fait à peu près 60 mètres carrés.
Ah, j'ai pas le même calcul. Ça faut que je repasse là. Faut que je repasse l'école.
Oui, non, mais parce que j'ai pas calculé l'air du pneu par rapport au reste. Parce que là, c'est pas réaliste. C'est-à-dire que j'ai vraiment calculé si je mets les pneus les uns à côté des autres, en incluant donc les vides qu'il y a entre les pneus.
Ah oui.
Oups. Concrètement, c'est une surface sur laquelle je dispose 138 pneus et qui représente l'équivalent de quelque chose.
Quelque chose qui est présent en F1.
Non, pas en F1, non. Ça a un rapport avec la F1, mais pas un rapport direct. Quoi que j'ai envie de dire, ça, oui, non, non.
Capillotractage, s'il te plaît.
C'est une surface, pas une longueur.
C'est une surface.
D'accord.
Ouais. T'as pas d'autre rapport avec Pirelli que le fait que ce soit 138 pneus, quoi.
Non.
Qu'est-ce qui fait 60 mètres carrés?
Alors attention, généralement ça ne fait pas 60 mètres carrés.
Oh ben...
C'est dans ce cas précis que ça fait 60 mètres carrés.
Dans ce cas précis, ça fait... Ça... Alors c'est pas que ça fait 60 mètres carrés, ça fait, moi selon mes estimations, ça fait une quarantaine de mètres carrés, mais si on fait, on s'en tient aux dimensions de largeur et de longueur, pour tout recouvrir, il faudrait... Ça fait 60 mètres carrés.
Ah, c'est le bac à sable où Hamilton s'est planté en 2007 en Chine.
Non, il faisait 6 mètres carrés.
Un court de tennis?
Non.
C'est une surface utilisée dans un sport?
Oui, c'est une surface qu'utilisait dans un sport. En Formule 1, d'ailleurs. Enfin, qui n'est plus utilisée en Formule 1, mais qui l'a été.
L'astroterre? Mais non, c'est dur.
Non.
Du bitume? Enfin, du ciment?
Non. Je peux même vous dire, c'est un...
Ah, mais oui, d'accord. Là, je vais dire, d'accord, vous connaissez. C'est le pénis du Nürburgring.
Eh ben, bravo, Gus Gus.
Oh, putain!
C'est le pénis géant de 15 mètres de longueur sur 4 mètres de large qui a été dessiné sur la piste du fameux Nordschleife, la version longue du Nürburgring. Donc, qui représente donc une surface, on s'en tient aux dimensions, largeur fois longueur de 60 mètres carrés, soit 138 pneus Pirelli posés les uns à côté des autres. Mais bon, tout le monde visualise un peu un pénis. On sait très bien que...
Donc, j'annonce cette semaine, il y aura une actu dont tout le monde se fout en moins.
Et donc, tout le monde sait très bien qu'un pénis n'a pas une forme rectangulaire.
N'a pas une surface de 60 mètres carrés non plus.
Voilà, tout à fait. Pince dans un virage à droite rapide situé dans la section de Brunken, ce graffiti a provoqué dimanche la fermeture du circuit allemand pendant 2 heures, le temps que les équipes techniques le retirent. Mais ce ne sont pas des raisons de moralité qui ont justifié cette fermeture, mais avant tout des raisons de sécurité, puisque les auteurs du graffiti ne se sont pas contentés, les petits malins, de faire les contours d'un sexe masculin, mais l'ont intégralement peint, allant même jusque dans le détail de la jouissance masculine. Donc, cela représente donc, selon mes estimations, une quarantaine de mètres carrés de peinture, qui constitue donc un véritable danger dans ce virage en aveugle, qui se négocie à titre d'exemple avec une Günpert Apollo à 115 km/h et où on encaisse 1,45 G. D'ailleurs, sur le site officiel du circuit, il s'agit d'une des 10 zones signalées comme étant dangereuses et l'un des secteurs où l'on enregistre le plus d'accidents lors des Touristenfahrten.
Gus, si tu veux lui dire à gueule, c'est le moment.
Non, c'est intéressant.
Parce que justement, il faut rappeler que le Nordschleife est depuis 40 ans un circuit ouvert au public lorsqu'il n'y a pas de compétition et de séance d'essai. Ainsi, pour quelques dizaines d'euros, n'importe qui avec une voiture homologuée pour la route peut s'y aventurer à condition de respecter le code de la route allemand, qui, pour quiconque connaît le code de la route allemand, n'est pas trop embêtant puisqu'il n'y a pas de limitation de vitesse, sauf dans certaines sections du circuit, mais c'est surtout l'interdiction de doubler par la droite sur le circuit pour des raisons évidentes de sécurité. Il faut également savoir qu'en cas d'accident, toute présence de matériel de chronométrage à bord de la voiture, aussi basique soit-il, sera dûment noté dans le rapport de police et pourra être considéré par certaines assurances comme un motif de non-dédommagement. Dans ce cas, les dégâts occasionnés à votre auto, aux autres véhicules, ainsi que les éventuelles réparations des infrastructures du circuit seront à votre charge.
Et les caméras vidéo aussi.
Et là, tout d'un coup, vous dites... Oui, les caméras, enfin tout ce qui montre en fait que vous cherchez à faire une, enfin qui laisse supposer que vous avez cherché à faire une performance. Par conséquent, les gens ont donc pris l'habitude de laisser leur marque sur le circuit en inscrivant leur nom ou leur chrono. On peut également y voir des déclarations d'amour, des logos de marques, notamment de marques de voitures allemandes, et des hommages aux nombreux pilotes qui sont décédés sur le circuit. Il y en a plus de 60. Alors pour l'anecdote, il faut noter que dans la conception du jeu Gran Turismo 5, les développeurs ont attendu le plus tard possible pour finaliser le Nordschleife afin que les graffitis soient fidèles à la réalité, même si tous les dessins ou propos en dessous de la ceinture n'ont pas été reproduits. Alors certains ont cru voir un fuck, je ne vais pas traduire en français, mais ont cru voir un fuck, et en fait c'est le nom de famille de Hans Joachim Stuck, sauf que le S et le T se sont un peu effacés, et on voit que le UCK, donc tout le monde a dit « Ah c'est fuck », mais non en fait c'est Stuck. Alors on raconte même que Polyphony profiterait des mises à jour du jeu pour actualiser les graffitis, ce qui fait que certains viennent désormais sur le circuit avec l'ambition qu'un de leurs graffitis se retrouve sur le jeu.
Bah ils ont que ça à foutre, ouais.
Oui, c'était peut-être l'ambition des mecs qui ont décidé cette
quête géante. C'est pour ça que le jeu est sorti avec 50 de retard en fait. À chaque fois qu'il modifiait, il fallait encore modifier.
Alors, si jamais, par hasard, vous étiez amené à vous rendre sur le Nordschleife, plutôt que de dessiner une bite, disons-le, vous pourriez par exemple faire un peu plus pour le SAV de la F1 ou pour fanf1.com. Cependant, pensez bien à faire votre graffiti dans un secteur où le danger est minime et surtout en dehors de la trajectoire, d'abord parce que ça pourrait être source de danger, et ensuite parce que, naturellement, un graffiti sur la trajectoire va tenir moins longtemps et quitte à laisser notre marque sur le circuit autant que ça reste le plus longtemps possible. Non, voilà, c'était une manière de rendre hommage à tous ces gens qui font des graffitis sur le Nordschleife.
Alors, j'ai lu qu'il aurait fallu 20 litres de peinture pour réaliser cette œuvre d'art.
Oui, bon, on peut dire une œuvre d'art. Aux proportions assez étonnantes.
Tu t'y es vraiment attardé, dis donc, hein, parce que bon.
Ah bah, on enquête pas, monsieur. Moi, je me suis dit, dans cette émission, il y a un thème. Donc, ce thème, je le respecte.
Le gourdin.
C'est vrai que, oui, c'est vrai.
Parce que bon,
je tiens à m'excuser auprès de ma famille pour cette émission qui ne va pas donner une bonne image de moi. Je suis désolé.
Parce que bon, que ça se retrouve là, alors on est de bonne humeur et tout ça, ok. Que ça se retrouve sur certains sites d'actu qui ont que ça à faire.
Oui, voilà. Oui. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, puis c'est surtout aussi l'occasion de parler de ce circuit où qui est mythique et où on peut quand même prendre sa voiture. Je crois que c'est une trentaine d'euros pour aller faire un tour du circuit. Donc vraiment, c'est une expérience unique. Bon, après, je pense sincèrement qu'en faire un article, moi, je ne serais pas vu mettre mon nom en bas de l'article. À la limite, j'aurais mis celui de Fab.
C'est vrai que dans la rédaction, on peut modifier quand t'assumes pas. Ah non, n'utilise plus mon nom. Je suis plus dans cette
rédaction. Ah oui, c'est pas cool ça.
Eh merde. Tous les 1er d'avril vont être signés avec mon nom maintenant.
Oui, bah oui, parce que de toute façon, nos articles du 1er avril sont appréciés, donc l'année prochaine, on va le faire casquer, c'est mieux.
C'est quoi, c'est pas grave, j'ai trouvé une autre actu. Par quoi remplacer? Même niveau, en plus, donc ah non, c'est parfait. Parce
que, non, sincèrement, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a mis ça comme actu.
Bah oui, pour dire que...
devine qui c'est qui a gagné.
Devine qui c'est qui savait qu'il fallait 20 litres de peinture.
Non mais franchement, Gus, tu forces mon admiration. Ah. Je me suis rendu compte que t'avais le droit de dire ta gueule et tu forces mon admiration, ouais. Gus.
Pas trop de flatterie, j'aime pas ça.
Ah messieurs, on va passer au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Et on a des actus cette semaine. Par exemple, comme vraie actu, hein, on a eu les V6. On va beaucoup parler des V6, hein, forcément cette année, dont apparemment on est en train de négocier des essais hivernaux supplémentaires pour tester ces V6.
Bah, c'est pas surprenant. Hein.
Bah, c'est pas forcément obligé. Hein.
Oui, c'est pas obligé, mais bon, enfin, on s'en doutait un peu qu'ils allaient demander plus d'essais.
Mais est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va se faire?
Oui, non, mais enfin, pour le moment, il y a rien qui a été décidé.
Non, pour l'instant.
Donc voilà, on fait des articles, je sais plus, je crois que c'est Fab qui avait l'article, mais on fait des articles pour grosso modo dire que oui, les équipes veulent, bah oui, enfin en même temps, on se doutait bien qu'elles allaient vouloir revenir au moins à 4 semaines d'essai, ce qui était déjà le tarif l'an dernier. Cette année, faut rappeler qu'ils sont redescendus à 3 semaines d'essai, et même sans ça, enfin on pouvait se douter qu'avec le nouveau moteur, avec l'aérodynamique et compagnie, enfin ils allaient pas se contenter de 3 semaines, quoi.
Moi, ce qui me surprend, c'est justement quand on en soit qu'à ce stade-là, ça fait depuis mi-2011 qu'on sait que ces nouveaux moteurs vont arriver. Les dirigeants sont même pas mis d'accord sur un calendrier pour faire des tests genre cette année, parce que comme on avait fait en 2005 pour les nouveaux moteurs V8 de 2006, on est en avril 2013 et on sait toujours pas quand est-ce qu'on va faire des essais supplémentaires. Comme le dit Rob White, on n'en pourra pas en faire cette année parce que on s'y est pris trop tard, et c'est ça que je trouve surprenant, quoi.
Ils en sont encore à la question du bruit, parce que Bernie veut encore amplifier le bruit des V6.
Ah d'ailleurs, non mais sincèrement, alors Jean-Luc Moncey, taisez-vous, quoi, j'en ai marre. Alors Jean-Luc Moncey, il a je sais plus à qui il a parlé, mais ça a été repris par pas mal de sites anglophones.
Et c'est sur son blog.
Et il se met encore à dire que c'est ceux qui paniquent, les journalistes qui paniquent, ce sont les jeunes journalistes qui ont pas connu les V6. À un moment donné, moi j'aimerais simplement c'est qu'il nous lâche la grappe, Jean-Luc Moncey, mais qu'il arrête de faire le vieux con, parce que c'est un peu ce qu'il fait en n'arrêtant pas de taper sur les jeunes journalistes, en disant que les jeunes journalistes, ils sont devant leur ordinateur, que c'est eux qui ont peur des V6 parce qu'ils suivent trop les courses d'IndyCar.
Et justement, il faut qu'Eccleston, il regarde l'IndyCar de temps en temps, parce que, à force, oui, il négocie des clauses avec les circuits pour pas qu'ils accueillent l'IndyCar, mais justement, s'il regardait un peu l'IndyCar, il entendrait que le bruit des V6 d'IndyCar, alors peut-être qu'il est pas aussi fort en réalité, je sais pas, j'ai jamais été sur une course d'IndyCar, mais c'est un joli bruit, c'est un vrai bruit de voiture de course, c'est un vrai bruit de turbo, mélodieux et tout, qui, moi j'ai regardé la course, c'était dimanche soir. En même temps, j'étais sur un chat et les gens étaient d'accord pour dire que le bruit des V6 d'IndyCar était plus joli que celui des V8 atmosphériques d'aujourd'hui, quoi.
De toute façon, même quand on est passé au V8, on s'est dit, on quitte les V10, le bruit sera pas pareil, c'est chaque fois la même chose. De nouveau, aujourd'hui, plus personne ne se plaint ou viendrait à l'idée de dire que le bruit du V8 n'est pas beau, donc c'est comme tout, au début, le bruit du V6, ça va faire un peu bizarre parce qu'il sera différent, mais on va s'habituer et ça restera quand même un moteur de course, quoi.
Mais c'est comme le look des monoplaces, hein. Tout le monde a hurlé en 2009 quand il y avait les nouvelles voitures, puis aujourd'hui, on peut quand même dire que les voitures, elles sont super belles. Voilà.
Bah, on s'y est habitué.
On s'est habitué, tout simplement,
ça,
donc c'est une question d'habitude.
De là à dire que c'est les plus belles qu'on ait eues.
Non, c'est pas les plus belles, mais elles sont belles, on s'est habitué, on fait avec. Après, c'est sûr que, en même temps, si on se pose sincèrement la question, on va s'amuser là, mais quelle est votre plus belle voiture pour vous?
Williams, la plus belle voiture de
voilà, Ben?
La plus belle, enfin, là, je suis un peu replongé dans des vieux Grands Prix, j'ai revu les vieilles Arrows, j'aime bien la Arrows A23, la toute dernière,
ouais,
orange et noire, c'est vraiment belle. Ouais.
Tu dis?
McLaren 2005.
Ouais, et moi ce serait l'une des Lotus, le Lotus 72 par exemple, ou la 49, qui sont des très jolies monoplaces, quoi. Donc rien que là, on n'est que 4, on est dans des époques différentes, dans des marques différentes, et ça dépend de nos goûts, tout simplement. Donc, encore une fois, moi c'est toujours l'idée qu'il y aurait un goût unique en Formule 1, mais voilà, il y a des gens qui vont peut-être pas apprécier les V8, qui arrêteront peut-être de regarder la Formule 1. Maintenant, le fait, c'est que aujourd'hui, les sports où il y a des V8, ils vont plus en trouver beaucoup, donc ils vont quasiment tout le temps devoir se pencher vers du V6. C'est déjà ce qui se fait en IndyCar. S'ils quittent la Formule 1 pour regarder l'IndyCar, ils vont pas être dépaysés. Donc voilà, à un moment donné, il y aura des gens qui vont aimer, des gens qui aimeront pas, mais comme à chaque fois, comme toute période.
Enfin, moi, il y a 2 ans, j'étais à Spa-Francorchamps pour les 1000 mètres. Il y avait donc certaines voitures qui participent au Mans, comme l'Audi. Elle fait vraiment pas beaucoup de bruit, l'Audi. Et j'entends personne critiquer le bruit des Audi du Mans.
Ah, si, ça se fait, ça. Parce que les diesels du Mans, les Audi, les Peugeot, faisaient vraiment pas beaucoup de bruit. On entend plus le bruit de l'air sur la voiture que le bruit du moteur. En plus,
Les Audi, ça m'a vraiment marqué. T'avais vraiment l'impression que c'était un peu aéroglisseur. C'était très bizarre. Mais bon, ça reste des voitures de course, hein.
Mais, sincèrement, si l'année prochaine, le championnat est magnifique, même si le bruit est un peu plus faible, le championnat sera magnifique, tout le monde s'en contentera, quoi. Il y aura le petit bémol de se dire, les bruits des moteurs, c'est pas terrible. Mais est-ce que le sport auto se résume uniquement au bruit?
Et puis, sur le volume, ça n'impacte que les spectateurs sur place. Les téléspectateurs, le son, ils augmenteront le son et le niveau de volume pour les téléspectateurs sera le même. C'est pas ça le problème, quoi. C'est la sonorité plus qui... Mais comme elle sera meilleure, a priori...
Et ce qui est bien, c'est que Canal Plus n'aura plus son problème de son.
Oui,
ah oui, c'est vrai.
Ils vont avoir des caméras embarquées et parler en même temps, il n'y aura plus de problème. Mais pas de nouvelles d'Honda, sinon. Parce que depuis le début de l'année, chaque semaine, on parle d'Honda. Là, pas de nouvelles d'Honda, rien.
Non.
C'est juste le bruit qui nous intéresse cette semaine.
Voilà, le bruit, les essais, non. Sinon, deuxième actu, Sébastien Grosjean qui veut montrer son potentiel, qui visiblement n'aura plus son souci de... Enfin, souci,
la grande question,
guillemets.
C'est va-t-il réussir à se qualifier avec sa raquette?
Oui, faire un ace.
Vous savez, Shinji, il est un peu fatigué, hein.
Oui, tu sais, je sais pas, c'est le tennis ce week-end.
On regrette les anciens grands champions.
Donc oui, c'est surtout Ben et Jen qui ont mis ça.
C'est quoi, non, moi je suis sûr d'avoir Romain Grosjean, mais...
Oui, non, mais t'as mis Grosjean...
Oui, bah c'est vrai.
Grosjean veut montrer son plein potentiel à partir évoqué, de la Chine.
J'ai un peu évoqué ça la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on sent un peu qu'il est... Enfin, surtout en Australie, il est un peu sur des œufs. En Malaisie, il a pas entamé le week-end de la meilleure des façons, donc qualif course, ça s'est mieux passé, donc bah voilà, c'est peut-être le début, la Chine peut marquer le vrai début de sa saison avec un week-end où tout se passe bien dès le début, où il peut bien profiter des essais, et du coup encore en profiter un peu plus en course, et, parce qu'en Malaisie, il termine devant Raikkonen, qui a fait une course relativement anonyme, donc...
Et avec une monoplace théoriquement moins bien équipée.
Oui.
Enfin, pas avec les dernières.
Et normalement, ça ne sera plus le cas.
Bien qu'en course, j'ai l'impression que c'est Raikkonen qui avait un peu hérité des problèmes de Grosjean, ne sachant pas trop comment sa Lotus se comportait. Elle se comportait un peu différemment de d'habitude.
Ah, ce qu'on avait dit, oui, hein, c'est que c'est pas forcément l'avantage de Raikkonen, hein.
Ouais,
forcément,
non,
comme
pas...
c'est lui qui développe les pièces, il fait avec les bons aspects et aussi les mauvais aspects des nouveautés. Mais sur Grosjean, globalement, moi je trouve que on est assez critique dans certains commentaires, sans doute parce qu'on se réfère à l'intégralité de sa saison et qu'on attend plus parce qu'on a vu plus l'année dernière. Maintenant, moi sur les sites italiens ou sur les sites anglais, quand on parle de Grosjean, les analystes, notamment sur Autosport, sont plutôt satisfaits du début de saison de Grosjean en soulignant le fait qu'il a marqué des points, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Il a été prudent. Enfin, il a fait fondamentalement ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire d'être prudent. Et manque de bol pour lui, c'est que alors qu'il fait ce qu'on attendait de lui, il y en a un côté qui remporte un Grand Prix et qui voilà, avec une super monoplace. Donc c'est un peu le contraste, mais sinon il fait effectivement un bon début de saison, quoi.
Ouais, les trucs, c'est gros. Ils sont que deux personnes à avoir mis ça.
Oui.
Et c'est quand même la deuxième actu.
Bah oui, Ben l'a mis en deuxième place et Jen à la troisième.
Oh.
Attention, non, mais... je ne donne pas forcément les actus dans l'ordre du score qu'elles ont eu.
Ah.
Oui.
Oh, je savais pas ça.
En général, j'alterne les gros trucs et les petits trucs, ou voilà, ça dépend. T'sais.
Bien fait, cette histoire.
C'est
un vrai podium à géométrie variable.
Il tire au sol.
Non mais, vraiment, moi, j'étais pas là la semaine dernière, l'émission s'est bien déroulée. Le jour où Shinji n'est pas là...
Vous êtes tous dans la merde.
On est dans la merde, les gars.
Tu vas nous laisser un manuel de 20 pages.
Ah bah, minimum. Ça, c'est juste pour l'introduction.
Je voudrais démerdez-vous. Messieurs, passons à la suite des actualités. Avec Red Bull et Christian Horner, qui souhaiterait en fait plutôt une réglementation stable plutôt qu'un RRA.
Oh, étonnant.
C'est étonnant.
Ah, Christian, quel farceur.
Rappelez-moi, qui a été champion du monde, juste pour être sûr.
Il me semble que c'est l'écurie Red Bull.
Ah ouais, je me disais aussi.
Je dis ça, faut peut-être vérifier.
Et surtout, qui est soupçonné d'avoir explosé le RRA depuis 3 ans? C'est aussi Red Bull.
Mais sinon, s'ils veulent une stabilité de règlement, il faut qu'ils en parlent avec Ferrari. Je crois qu'ils ont des entrées à FIA, des trucs... Ah ouais, c'est sûr que de toute façon, voilà, si chaque fois que tu changes la réglementation, c'est des investissements en plus. On en parle beaucoup avec le moteur 2014. Donc forcément, bon, les équipes, de toute façon, elles ont un budget. Et donc, si elles dépensent pas de l'argent pour travailler sur un moteur, elles le dépenseront ailleurs. Je pense que Red Bull...
Mais c'est là qu'est l'hypocrisie de Christian Horner, quand il nous dit que ça, entre guillemets, selon lui, ça finalement, ça aiderait à réduire les coûts. Mais non, mais vous allez juste dépenser plus pour gagner moins, parce que fondamentalement, vous allez chercher à dépenser des millions pour gagner des dixièmes, des millièmes de secondes, quoi. Il y a qu'à voir l'argent qui est dépensé dans les arrêts au stand pour développer développer des nouveaux outils et compagnie, quoi. Donc, juste pour gagner du temps dans les arrêts. Voilà. Donc.
Ouais, non, il faudrait une vraie, de toute façon, réduire les coûts, enfin, c'est un problème, c'est vrai. Enfin, il le dit lui-même, ça fait 5 ans qu'on en parle. J'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup, quoi.
Je pense surtout qu'il y a un problème, c'est que comme souvent dans plein de trucs, c'est que on aborde un problème en disant il y a une solution. Bah non, il y a peut-être plusieurs solutions. Réduire les coûts, il y a peut-être effectivement travailler à une réglementation plus stable, mais aussi travailler sur des actes concrets de réduction des coûts, sur l'instauration pourquoi pas d'un budget plafond. Voilà, c'est un ensemble de choses. C'est pas soit on fait le RRA, soit on fait une réglementation stable. C'est essayons peut-être de conjuguer les deux.
Il faudrait des contraintes. C'est toujours pareil, c'est des pompiers pyromanes. Ah oui, on voudrait bien réduire les coûts, puis à chaque fois c'est les mêmes qui explosent les accords.
Oui, et moi j'aimerais qu'ils déclarent leur patrimoine publiquement. Moi j'aimerais qu'ils fassent ça.
Non mais c'est toujours pareil, si ça a pas avancé depuis 5 ans, c'est aussi parce que Red Bull ou Ferrari ou n'importe qui d'autre a mis un veto parce qu'il faut une unanimité. Il faudrait un moment ou un autre que la FIA tape du poing sur la table, qu'elle montre aux écuries qui c'est qui commande à un moment ou un autre, parce que sinon elle en est réduite à faire la synthèse de l'avis des écuries, et ça marchera jamais parce que
mais le problème c'est qu'elle l'a fait. Elle l'a fait en 2007-2008, et ça lui est retombé sur le coin du nez, quoi. Et on a vu effectivement qui avait les rênes du pouvoir en Formule 1, et c'était pas la FIA.
À l'époque, les écuries étaient à peu près unies, à part Force India qui était pas dans la FOTA, mais maintenant t'as Red Bull et Ferrari qui sont plus dans la FOTA. Les écuries maintenant elles sont divisées, donc je pense que la FIA elle devrait profiter de ça pour taper du poing sur la table.
Mais elles étaient aussi divisées avant. Elles se sont unies justement parce qu'on les menaçait. Aujourd'hui, la FIA, si la FIA ressort des projets de budget plafond et compagnie, crois-moi que les équipes, elles vont vite se réunifier, elles vont vite ressortir la FOTA de la jolie tombe qu'ils ont creusée pour elles, et voilà, elles vont à nouveau faire front commun, et ça, on se retrouve face au même problème.
Je suis pas totalement convaincu, parce que moi j'ai l'impression que dans les équipes de milieu de peloton, il y a plus d'équipes qui seraient d'accord d'une réduction vraiment concrète des coûts que ça par rapport à 2008-2007 où la problématique se posait peut-être moins, même dans ces équipes-là.
Parce que les derniers reports qu'on a eus, c'est Red Bull et Toro Rosso du coup qui bloquaient, quoi, plus que les autres. Même Ferrari avait l'air d'accord.
Oui, mais ils sont d'accord sur la base, mais forcément à un moment donné, aujourd'hui ils sont d'accord parce qu'il y a strictement rien qui est en route, donc c'est facile d'être d'accord sur un principe général. C'est-à-dire oui, effectivement, il faut résoudre les coûts. Si jamais la discussion arrive vraiment sur la table, tu verras que d'un coup, il y en a certains qui ont cette vision-là de la réduction des coûts, d'autres qui ont telle vision ou tel moyen d'application, et que ils vont peut-être pas tous se mettre d'accord.
Ah oui, c'est sûr qu'ils ont tous des visions plus ou moins différentes, et que les intérêts d'une écurie comme Sauber ne sont pas les mêmes qu'une écurie comme Red Bull, par exemple. C'est évident, mais je pense quand même qu'il y a une réflexion à avoir sur le sujet, quoi, parce que...
Eh mais en l'état, je pense que du coup, ça mènera à rien, quoi, il n'y a rien qui changera, du coup. Là, tu peux pas mettre, justement, comme Red Bull et Sauber ont des intérêts différents, par exemple, t'arriveras jamais à les mettre d'accord. Tant qu'il faudra une unanimité pour changer un règlement, je sais pas si ça bougera.
Mais c'est pour ça que aujourd'hui, c'est le problème, c'est la FIA qui aujourd'hui, sincèrement, a pas les épaules pour pouvoir mettre en place quoi que ce soit. Enfin, je veux pas être méchant, mais la FIA avec Jean Todt, c'est devenu sincèrement un organisme gestionnaire plus que véritablement un impulseur de véritable innovation et compagnie. Sur la plupart des dossiers qu'ils ont amenés, ils ont reculé. Ils ont jamais, depuis que Jean Todt est là, ils ont jamais véritablement su imposer un truc. À chaque fois, ils ont reculé. Publiquement, c'est-à-dire peut-être qu'avant ça a reculé, mais au moins c'était incarné par un Max Mosley qui avait sans doute ses problèmes et qui était suffisamment politique pour représenter la troisième force face à Bernie Ecclestone et face aux écuries, et pour donner un peu cette impression que la FIA pesait. Sauf que là aujourd'hui on a clairement l'impression que la FIA elle pèse plus rien, elle est obligée de discuter, de faire des compromis, quoi. Et je ne crois pas au compromis. Ouais,
bon bah passons à la suite.
Non, ça va vite cette émission.
C'est clair. Non mais là vous allez peut-être être plus inspiré, c'est un peu l'actu de la semaine, hein. C'est d'abord une nouvelle sympa, enfin oui on peut le dire, c'est quand même un record d'arrêt au stand qui a été, alors pas encore homologué, mais identifié en tout cas ce week-end à Sepang. Mais justement il y a eu un très bon article sur ça sur FanF1. Est-ce que les arrêts au stand ne finissent pas par être trop rapides au détriment notamment de la sécurité.
Moi, avant d'aborder ça, ce qui me fait rigoler, c'est à chaque fois l'écurie qui dit « c'est bon, c'est moi qui ai le record ». Donc genre, elle se chronomètre elle-même, on sait pas dans quelles circonstances, on sait pas de quand à quand vont les 2 secondes 05, là, du coup. Ce qui fait que, au final, le record, il peut peut-être rien vouloir signifier par rapport à une écurie qui chronomètrerait différemment, quoi.
Ouais, parce que Red Bull revendique pas avoir battu une fois le record, mais 5 fois. Le record
C'est vrai qu'ils ont
désormais
été très
nouveau record, ça serait Weber 2 secondes 05, 2 secondes 13 avait été réalisé juste avant par Vettel, et ils auraient battu 3 autres fois le record qui était de 2 secondes
31.
Ouais.
De 31.
Mmh. Sachant que ouais. McLaren et Mercedes ont fait
de 28
Ferrari,
et de 29.
C'est pour ça que je dis bien que ce n'est pas homologué pour l'instant.
Non, bah tout comme le record McLaren n'était pas homologué, enfin.
Oui, ça ne sera jamais. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se charge de ça. Bon, c'est pas que tout le monde s'en fout, mais il y a d'autres choses à faire, quoi.
Mais c'est aussi dire aussi l'importance aujourd'hui que revêtent ces arrêts au stand, le fait que les équipes revendiquent un record de vitesse dans les stands, c'est dire à quel point aujourd'hui c'est devenu un secteur de développement pour les équipes et un secteur de performance qui est extrêmement recherché parce que effectivement ça fait gagner des places et c'est à une ère où t'as 3-4 arrêts par Grand Prix, c'est devenu quasiment aussi important de développer les arrêts au stand que de développer la voiture. Et d'ailleurs, lors des essais hivernaux, Red Bull a énormément travaillé ses arrêts au stand, et c'est pas étonnant que ce soit eux qui fassent le record. Ils ont énormément travaillé leurs arrêts au stand, les procédures, les nouveaux matériels et compagnie, parce qu'ils y consacrent beaucoup de temps, quasiment plus qu'à leur voiture. Ils ont quasiment plus évolué dans les stands qu'ils ont évolué dans la RB9.
Ouais, ce qui était marrant à Barcelone, par exemple. Enfin, j'imagine que c'était pareil à Jerez, mais c'est que leur cric était même caché, quoi. Ils avaient des housses dessus, et quand ils s'en servaient pas, c'était bien caché à l'entrée du stand, mais on pouvait quand même pas voir la forme que ça avait, à part le manche, on voyait rien, quoi. Et il était pas temps de trop s'en approcher non plus, quoi.
Il y a quand même eu une news qui est sortie la semaine dernière. Enfin, sincèrement, il y a 3-4 ans, ce type de nouvelles, on les voyait pas. Lotus qui annonce qu'ils vont essayer un nouveau cric arrière. généralement, ils vont essayer un nouvel aileron et compagnie. Non, aujourd'hui, on te parle du cric arrière. C'est un truc de dingue, quoi.
Mais c'est vrai que sur ces dernières années, le matériel des ravitaillements, enfin des arrêts au stand, a complètement changé. On voit les diodes pour relâcher la voiture à la place de la sucette. Au niveau des crics, c'est totalement différent aussi. Le mec de la sucette à l'avant, enfin du cric à l'avant, il se décale immédiatement pour pouvoir dégager au plus vite l'espace devant la voiture. Enfin, c'est quand tu regardes les courses, il y a même encore 5 ans, ça a beaucoup beaucoup évolué, quoi.
Et beaucoup d'accidents au stand.
Oui, c'est ça.
Des roues mal attachées parce que on s'empresse parce que justement on est dans l'esprit. C'est d'ailleurs l'année dernière, c'était criant, McLaren qui était l'équipe la plus rapide au stand, mais en même temps celle qui faisait le plus de boulettes parce que les mecs sont tellement en train de chercher la performance que par exemple l'homme à la sucette, il pense même plus, il a même plus le temps de réfléchir, est-ce que les gars ont bien fixé les roues, ne serait-ce que de vérifier, c'est une perte de temps de vérifier, c'est juste du principe, 2 secondes c'est bon, je lève, et ça fait ce qu'on a vu par exemple avec Button, c'est que un mec qui est là avec son pistolet, il a même plus le temps de lever le bras, puisque le mec avec la sucette, enfin avec le bouton, il a déjà dit que la voiture pouvait partir.
Ouais, c'est sûr, plus le temps d'arrêt diminue, plus le risque d'erreur augmente. Mmh. Tu peux pas faire en 2 secondes ce que tu feras en 5. Enfin, au bout d'un moment, là, il y a une limite qui va être atteinte et tu pourras plus...
Surtout que Ferrari, ils ont revendiqué un arrêt. Donc là, c'est par contre, c'est voiture arrêtée et déjà à son emplacement, un arrêt en 1 seconde 9. Donc c'est, enfin ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est pas de savoir si on va passer la barre des 2 secondes, mais c'est quand.
Oui. Après, il y a des limites humaines.
Oui, mais rappelle-toi, on disait 2.31, c'est déjà très très bas. Là, ils ont mis 3 dixièmes dans la gueule au précédent record, donc.
D'ici à ce qu'ils arrivent à changer les pneus alors que la voiture roule toujours.
Il y en a qui travaillent dessus. Mais du coup,
c'est ça qu'ils font chez McLaren, en fait. Les pneus qui partent quand la voiture roule, c'est fait exprès. C'est mis sur l'avenir.
Mais du coup, quelle solution? Ah, parce que je sais qu'on a, alors dans l'article, il y avait un sondage. Donc la question, c'était comment la FIA devrait-elle réagir face à d'éventuels arrêts au stand de moins de 2 secondes? Il y a eu 350 votes. Donc est arrivé en dernière position standardiser les procédures d'arrêt au stand et le matériel utilisé, 10,29% des suffrages, imposer un temps minimal d'immobilisation qui a réuni 16%, limiter le nombre de mécaniciens autour de la voiture qui a réuni 28,86%, et enfin à une large majorité, laisser les équipes chercher la performance dans les stands à 44,86%.
C'est vrai que réduire le nombre de personnes autour de la voiture, ça serait une bonne, ça sera un bon plan.
Oui.
Je pense que c'est le moyen le plus réaliste pour diminuer augmenter la durée d'arrêt.
Oui, ça va augmenter la durée. Est-ce que ça va réduire la dangerosité? J'en suis pas sûr non plus. Hein.
L'idée que j'aurais, c'est il y a une discipline, je sais plus du tout laquelle, si c'était la Super League Formula ou autre chose qui faisait ça, c'est que tant que la voiture est pas arrêtée, personne peut dépasser une ligne dans les stands. C'est-à-dire que la voiture s'arrête et les mécaniciens sortent pour faire l'arrêt.
C'est peut-être un GP.
Un GP, je sais plus exactement qui faisait ça. De la même manière en NASCAR, tant que la voiture est pas arrivée, tant de stands avant de s'arrêter, les mécaniciens peuvent pas sortir du muret. À mon avis, c'est la meilleure solution pour que personne ne soit fauché dans les stands et que les mécaniciens soient déjà ça rallonge le temps de l'arrêt parce que la voiture s'arrête et les mécaniciens sortent et donc la voiture reste immobile.
En NASCAR, il y a même que 2 pistolets. Hein.
Oui, il y a que 2 mécaniciens, ils sont obligés de et ils font quand même des arrêts super rapides en NASCAR avec le matos qu'ils ont. Ce serait la meilleure solution. Après, je suis pas contre la standardisation du matériel comme les pistolets, les écrous, voire même les jantes, hein, tant qu'à faire.
Oui.
On standardise les pneus, pourquoi pas avoir une roue complète standardisée.
Mais surtout que maintenant, en plus, ça réduirait d'autant plus les coûts. D'abord parce qu'on aurait un matériel standard, donc là toutes les équipes auraient le même matos. Donc oui. En plus, on peut même s'entendre sur un matériel parce qu'aujourd'hui, c'est pas le matériel qu'on gagne du temps. On peut très bien penser que aujourd'hui, si on standardise le matériel, on n'ira pas plus vite avec ce matériel-là, sauf dans des procédures d'utilisation en essayant de maximiser l'utilisation. On peut même envisager de revenir à un matériel un peu plus ancien, un peu plus basique peut-être, un peu s'inspirer de ce qui se fait notamment en IndyCar où on a un matériel relativement basique pour les arrêts au stand. Et en plus, là où ça fait économiser aussi de l'argent, c'est qu'on le voit par exemple avec Williams qui ont adopté un système d'écrou de roue qui est creusé et compagnie, c'est que comme tu standardises cette partie-là de la voiture, nécessairement en termes de développement, tu vas limiter énormément les dépenses de développement à ce niveau-là, donc tu économises encore de l'argent, quoi.
Donc oui, tant que tu prends un matériel un peu quelques années d'âge mais qui reste fiable, c'est pas le but que soit vraiment de la mauvaise qualité, parce que si tu repars, c'est toujours ça le problème, que de la même manière qu'on critique Pirelli maintenant, si t'as un matériel standardisé et qui marche mal, ça te retombe sur la gueule, un peu comme aussi McLaren avec la télémétrie et le CU, quoi.
Ouais. Mais il faut que ça.
Ouais, mais si c'est Pirelli, en plus, on leur a demandé de faire des pneus qui se dégradent. Donc, le problème, nous, entre guillemets, de la qualité, vient un peu de la demande. Ici, il y aurait un matériel standardisé, qui n'irait pas forcément chercher la performance absolue, qui serait, quand même, un certain, qui aurait quand même des obligations d'avoir un certain niveau de qualité.
Oui, il y a des charges.
D'office.
Oui. Mais c'est ça le truc, c'est que, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas empêcher les équipes de chez à faire la meilleure performance au stand. Mais on pourra peut-être minimiser l'intérêt. C'est vrai que, avant, la question se posait pas trop parce qu'il y avait le plein à faire. Donc, c'était des arrêts au stand qui duraient 7-8 secondes minimum. Donc, forcément, on avait le temps de changer les pneus. Le fait d'avoir retiré le carburant, tout de suite, on s'est dit, mais il y a un temps phénoménal à gagner sur les pneus. Et c'est vrai que si on regarde alors ça serait bien peut-être un jour d'avoir une équipe qui nous donne ce type d'informations-là. Si on regarde sur les dernières années, depuis qu'on a plus le ravitaillement à faire, la première année, on faisait un arrêt en 4 secondes. Et là, aujourd'hui, on est en 2 secondes, donc c'est-à-dire le temps que les équipes ont gagné, et donc quoi qu'il arrive, les équipes chercheront toujours à gagner, et c'est aussi ça qui est le challenge. Aujourd'hui, c'est un domaine, contrairement au reste de la voiture, c'est un domaine qui est plutôt laissé libre aux écuries, alors que dans la voiture, il y a plein d'éléments où les écuries doivent respecter un cahier des charges défini par la FIA, sauf là, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a rien qui est édité par la FIA.
Il y a des directives techniques, c'est pour ça qu'on n'est pas au courant, genre les gaz qui sont utilisés dans les pistolets ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'est comme d'habitude avec les directives techniques, on sait pas exactement ce qui est fait, quoi. Après, moi, je suis pas pour que ça devienne, je suis pour que ça reste un domaine différenciant. C'est-à-dire que, donner un temps minimum d'immobilisation, genre dire, la voiture reste 5 secondes au stand, et tout le monde reste 5 secondes, au final, ça sert à rien, quoi. Ouais. Il faut qu'il reste des différences qui puissent être faites, et que les écuries puissent quand même faire des erreurs, quoi.
Ça reste un moyen de passer en concurrence. Oui. Hein. Même si aujourd'hui avec le DRS, le CAIR, ce genre de choses, c'est moins important peut-être qu'il y a encore 2-3 ans, mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, c'était là que tu doublais, quoi. Et encore aujourd'hui, c'est un bon moyen de faire la différence.
C'est vrai qu'il faut garder cet aspect différenciant, mais je pense qu'il faut surtout redonner son importance aux mécanos. C'est-à-dire que fondamentalement aujourd'hui, certes les mécanos font la différence, mais là où ils font finalement le plus la différence, c'est quand ils font des boulettes. Parce qu'aujourd'hui, une grande partie du gain a été gagnée aussi par la technologie, par les lèvres-vite qui sont plus frontaux, mais que maintenant on peut pivoter avec et compagnie. Voilà, donc peut-être effectivement, moi c'est pour ça que moi j'aime bien l'idée de la standardisation du matériel, c'est de revenir à un matériel qui sera égal pour tout le monde, et là ce sera vraiment la préparation des mécanos, l'entraînement, la technique des mécanos qui fera la différence, un peu comme un pilote finalement. On cherche toujours à essayer de vouloir remettre le pilote un peu plus en avant, là c'est essayer de remettre le mécano un peu plus en avant.
Si t'as peut-être abandonné l'écrou central et faire comme en NASCAR, avoir 5 écrous, quoi. Parce qu'en NASCAR c'est vraiment des fous, hein. Il y a 5 écrous à enlever et ils font ça genre en 2 secondes, quoi. Bim 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 bim.
Messieurs, la dernière actu, elle est arrivée hier, le film sortira le 25 septembre, et on a enfin eu le trailer international du film Rush.
Du chef-d'œuvre, j'ai dit.
On déjà va pas aller jusqu'au chef-d'œuvre.
Tu m'en fous, moi cette bande-annonce, je l'adore.
Le film est pas encore sorti.
Ouais, on serait qu'à la claque, la bande-annonce, hein, c'est...
Ça a déjà quand même beaucoup rien plus de gueule que Driven.
Ah oui, oui, oui.
En même temps, si tu compares.
Ouais, t'avoues, tu places la barre aussi. Enfin...
Tu compares de la bière à du vin, tu sais.
Alors moi, j'ai quand même une petite réserve, c'est que j'ai un peu l'impression, quand je regarde la bande-annonce, bon, c'est peut-être pas loin de la vérité, mais on a quand même un peu l'impression que la bande-annonce est pas mal centrée sur Niki Lauda, et un portrait de, ouais, Niki Lauda qui est quand même le portrait d'un connard un peu arrogant, face à, finalement, un James Hunt qui est un peu plus effacé, qu'on voit surtout dans des scènes
le héros.
Donc j'ai un peu peur que ce soit assez manichéen, le gentil contre le méchant.
Il faut voir aussi ce que va être le film. Est-ce que c'est parce que il y a beaucoup d'action dans la bande-annonce. Est-ce que ça va être que ça?
Ah non, ça sera pas que ça.
Ou est-ce que...
Moi, c'est un peu plus les à côté vraiment de ce qui se passe sur les Grands Prix qui m'inquiéterait un peu plus. Mais bon, on peut pas vraiment juger ça.
Moi, personnellement, parce que c'est Ron Howard, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et qui a notamment déjà eu une expérience sur un film de sport, qui est Cinderella Man, je sais plus comment ça s'appelait, sur un boxeur des années 30, et qui était interprété par Russell Crowe, et qui était qui est jugé encore aujourd'hui comme un assez bon film de boxe, pas forcément par ses scènes de boxe qui sont très bonnes, mais surtout par la dimension humaine qu'il donne au sport. Et c'est ce que moi j'attends, et ce que j'attendais depuis le début avec ce film là bon, on s'est toujours attardé sur le fait que c'était pas en soi un passionné de sport, même si le scénariste est quelqu'un qui est plutôt passionné de sport, mais Ron Howard lui-même n'est pas quelqu'un qui est un fan de sport mécanique, et il s'en cache pas, mais ce que j'attends justement, c'est qu'il donne cette dimension humaine à cette histoire, et déjà ne serait-ce qu'en ça, le choix de l'histoire, le choix de l'époque, c'est déjà quelque chose de très encourageant.
Sur le plan, pour ce qui est du plan humain, il y a clairement matière, quoi, la saison.
Ah, puis enfin, il y a déjà dans la bande annonce, enfin, espérons qu'il n'y ait pas que ça, hein, parce que c'est toujours le risque avec les bandes annonces. Mais c'est vrai que quand tu vois Niki Lauda... Alors malheureusement, il n'y a pas encore eu de sous-titrage français. Je vous déconseille le sous-titrage automatique de YouTube. Je l'ai essayé. C'est une merde pas possible.
C'est une traduction Google, quoi.
C'est pire que ça.
Ouais, c'est pire que Google. Hein. Ouais,
c'est pire que ça, ouais. Mais quand t'as, on voit déjà la scène où c'est la réunion d'avant-course, où il est debout et il dit « Oui, je suis plus rapide que vous tous ». Tu fais waouh. En même temps, il y a qu'un Niki Lauda pour balancer. Enfin, sans doute pas que lui, mais ça colle, quoi.
Ouais, puis enfin, de ce qu'on sait d'aujourd'hui de Niki Lauda d'aujourd'hui, et de ce qu'on sait de James Hunt, tu te dis qu'il y a moyen d'avoir des répliques, des trucs un peu conscients. C'est quand même deux personnages. Ce serait bête d'avoir un film qui où avec que des répliques d'une platitude.
Oui. Mais c'est justement voilà. Ça que je trouve bien dans la bande-annonce, c'est que je trouve justement qu'il y a, pour une bande-annonce sur un sport mécanique, ils ont pas misé sur l'aspect film de course de bagnole et compagnie. Et c'est justement ce qui est intéressant.
Oh, il y a
des scènes, il y a notamment des scènes spectaculaires, le crash de l'Audat.
Quand t'as la voiture qui saute au Nürburgring oui, mais, ou les trucs de crash.
Oui, mais sincèrement, faut en regarder d'autres. La scène de la bande-annonce de Grand Prix, par exemple, et compagnie, où on misait davantage sur la carrosserie. Là, je trouve que on parle davantage des personnages. On met, alors, pour moi, dans cette première bande-annonce, davantage Loda en scène que Hunt. Mais déjà, ouais. On voit vraiment la volonté de dire, avant tout, c'est deux hommes, quoi. C'est deux pilotes, c'est deux hommes.
Et faut dire le mérite au niveau des voitures. Alors, je suis pas sûr que toutes les, je pense qu'il y a peut-être aussi un peu de 3D, de tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de scènes qui ont été tournées avec les vraies voitures d'époque. Ils sont allés au Nürburgring reproduire pour le cinéma, l'accident de Loda.
Heureusement qu'ils sont pas allés le jour où ils ont dessiné la bite.
Le film est déjà en post-production. Hein, donc,
bon, elle aurait été effacée, je pense.
On sait que ce qu'on va voir, c'est pas que de la 3D. Il y aura au moins certaines scènes où c'est vraiment les voitures qu'ils ont fait rouler sur des vraies pistes. Oui. Ça, c'est classe.
Ouais, je pense que la majorité des scènes ont été tournées, sauf peut-être les accidents
que tu sais, ça va être, c'est des plans composites qu'il va y avoir, c'est-à-dire que il y aura un peu de réel et puis peut-être aussi un peu de.
Sincèrement,
de 3D
dans la bande-annonce, on voit le crash de Loda, la 3D du crash, elle est magnifique, quoi.
Ah ouais, attention, j'ai pas dit que le film soit en 3D, ça serait pas bien.
Sincèrement,
hein,
là, pour le moment, on voit rien. Nécessairement, dans un film de bagnole, t'es obligé de mettre de la 3D. Surtout quand là, tu sais qu'il y a des cartons et compagnie, t'es obligé de mettre la 3D, surtout que utiliser ces voitures-là, ça reste aujourd'hui des voitures de collection qui ont une valeur inestimable.
Oui, bonjour, je vous emprunte une F1 qui a 40 ans, par contre je vais la détruire, je vais la foutre en morceaux.
Même Top Gear, quand ils ont une ancienne F1, ils la regardent, non, ils touchent pas, non. Alors que eux, quand ils ont une Ferrari ou quand ils ont la Ferrari, ils n'hésitent pas. Mais vas-y, fous-la dans le mur. Tiens, on a un avion, on la met dans l'avion, on va la faire sauter, on va voir si elle s'écrase bien.
On va mettre une caravane.
Alors à noter, je regarde la page Wikipédia du film, on voit un peu, parce que c'est vrai qu'on se dit, oui, il y aura James Hunt et Nick Loda, mais on se dit qu'ils étaient pas tout seuls non plus quand même à rouler à cette époque. Et alors apparemment, sur déjà ce qui est annoncé sur la page Wikipédia, on verrait, alors ça veut pas dire qu'on les verra longtemps, hein, mais apparemment, on les verra en tant que personnages, Claire Regazzoni, Patrick Depailler, ça paraît logique, Alexander Esquette, ça aussi ça paraît logique. Tu parlais de Hans-Joachim Stuck, apparemment, ouais. Il est dans le film. De même que Masahiro Asemi, mais c'est logique aussi, hein.
Et ah, c'est le meilleur temps de Jack Lafitte, c'est ça?
Zemolo. Oui, voilà, c'est le fameux meilleur temps de Jack Lafitte au Japon. Et aussi, apparemment, oui, Luca Di Monte Zemolo.
J'ai envie de voir casting, là, par contre.
Et Bernie Ecclestone, maquillé.
Oui, lui, il a tenu à garder son rôle.
Mais en même temps, ça serait pas idiot qu'on le voit dans le film, hein.
Et alors, vous conseilleriez quoi à quelqu'un qui, comme moi, par exemple, je connais assez mal l'histoire de cette saison-là. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux voir le film en sachant pas trop ou se documenter sur la saison avant d'aller voir le film?
Bah, moi, pendant l'hiver, je me suis déjà un peu documenté. Moi, j'ai un peu relu les bios des deux pilotes, un peu essayé de trouver des infos sur eux. Mm-hmm. Parce que il y a clairement de la matière pour, faire un très bon film. Maintenant, c'est un peu la même question de se demander si tu vas avoir une adaptation de bouquin en ayant lu le bouquin ou sans avoir lu le bouquin,
ouais,
tu vois.
Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à t'encourager à aller voir le film avant. Pour justement le regarder sans avoir ce regard critique, et ensuite derrière, moi c'est ce que je fais. Je vois par exemple Lincoln, j'étais voir le film sans connaître, enfin je connaissais les grandes lignes de l'histoire de Lincoln, mais sans connaître véritablement l'histoire. Et après, je me suis renseigné un peu plus sur le bonhomme et j'ai pu me dire là il en a fait un peu trop.
Se dire ne pas être emmerdé par se dire oui il en a
voilà,
fait trop,
ne pas gâcher le film en fait.
Ça. Plutôt être dans le sens se dire en sens inverse, se dire parce que on se doute bien, même là, c'est pas un film documentaire. Non. Il y aura sans doute des choses qui seront inventées, hein. Faut pas non plus rêver. Quitte à après découvrir que, en effet, il y a certains trucs qui étaient faux, puis qui ont été arrangés pour le cinéma.
Mais il faut surtout tenir à l'esprit, et là, c'est, Gus Gus, lui, il fera la part des choses, mais on sait que certains ne font pas forcément la part des choses. Gardez à l'esprit aussi que c'était un film de cinéma, qui s'adresse donc à un public large, pas uniquement de spécialistes, et donc, effectivement, il y aura des adaptations, il y aura des trucs qui nous paraîtront peut-être grossiers ou des trucs qui nous paraîtront pas nécessaires, des explications techniques ou ce genre de choses, mais c'est aussi justement parce que la vocation du film, et ça a clairement été dit par Ron Howard, c'est pas de faire un film pour les fans de sport mécanique, mais c'est de raconter une histoire humaine qui se déroule dans le cadre d'un sport mécanique, mais de le raconter en essayant de faire venir au cinéma monsieur et madame tout le monde, quoi.
Voilà. Je vous ai mis le, alors c'est pas l'affiche, mais c'est l'affiche de travail.
C'est très vite, super, sympa. C'est fait, super radiophonique.
Elle fait vite, super vite. Elle fait super vite. Oui, non, mais, pas obligé de le mettre, ça.
Alors pour nos amis aveugles, il s'agit d'une affiche orangeâtre, avec écrit Roche en blanc en plein milieu et avec deux bandes bleues et deux bandes grises qui prolongent le H.
Mais dans un style très années 70.
Et là encore une fois, il n'y a pas de voiture qui est mise en avant. On montre pas que c'est un truc de bagnole. Enfin, après, c'est qu'un projet, c'est qu'un concept. Je pense, sincèrement, qu'on verra Daniel Brühl.
C'est une affiche de
mais
travail.
Mais voilà,
ça,
encore une fois, dans les premières étapes de la communication, on ne joue pas sur le fait que c'est un film de bagnole. Et c'est peut-être le meilleur moyen de nous rassurer, finalement.
Intéressant, l'affiche IMDb, parce qu'on y voit quand même les noms de Stirling Moss, de Teddy Meyer, mais en même temps, tout ça paraît logique. Arturio Merzario.
Xavier Laurent Jourin, French Formula One Driver.
Alors sur Wikipédia, apparemment c'est Patrick Depailler, c'est pas un inconnu.
Il y a une fille, elle est créditée, elle joue le rôle de la femme de F1. C'est-à-dire que c'est un film où il y a plein de pilotes, mais il y a une femme.
Mais tu sais bien que tu les distributions, ouais, c'est toujours des trucs
complètes de chez complète, quoi.
Jochen Mass aussi qui est mis dedans.
Et un mec, son rôle c'est italien.
C'est Cadmerad.
Non, c'est spectateur japonais. Ou spectateur VIP, mais c'est un autre.
Par contre, ce qui est un peu décevant, c'est... Enfin, moi, je le vois pas, c'est Enzo Ferrari qui est pas dedans.
Mais après, quand même, quand t'es une comédienne, c'est quand même le film. Tu te dis, voilà, ouais, attends, je vais jouer dans un film. Je vais être une fille. Dans un film. Avec Chris Hemsworth, qui joue James Hunt. Si la fille connaît un peu le sport mécanique, elle sait déjà qu'à un moment donné, elle risque de coucher avec. Non, mais t'imagines, surtout, c'est le pire, c'est la fille, la seule dans le film, qui n'a aucune scène avec Hemsworth, qui se dit, ah, oh, putain, de rôle.
Ah, aussi, ils sont super bien faits avec l'Oda, quand même. Prendre le gars qui s'appelle Daniel Brühl.
Waouh, 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 waouh.
Mais c'est marrant, parce que, en plus, il est allemand, lui. Et c'est vrai que, comme c'est un film américain, donc il parle en anglais avec l'accent allemand.
Ben, je trouve ça un peu lourd, quoi. Ben, voilà, c'est pas non plus nécessaire de restituer, surtout que, sincèrement, l'accent, il est très très costaud.
Je suis sûr qu'en plus,
en VF, il y sera pas.
Beaucoup de gens, je pense, ben, en VF, ça va être complètement effacé.
Ouais, non, ça va pas déranger, parce que, de toute façon, l'Oda, quand on l'entend en interview, il a encore un accent, donc, que l'accent soit transposé dans le film. Moi, personnellement, dans la bande-annonce, ça m'a pas gêné du tout, quoi.
Mais justement, ce qui sera intéressant, c'est de voir l'opinion de l'Oda, parce que finalement, c'est quand même lui le seul qui pourra juger véritablement le film. Enfin, encore même, est-ce qu'il pourra vraiment être juge, parce qu'il est un petit peu parti quand même. Mais ça sera intéressant d'avoir son opinion sur le film.
Il a été consulté sur le scénario, genre de truc, mais je sais pas jusqu'à quel point.
Parce que mine de rien, c'est quand même le premier film qui va mettre en scène un personnage qui pourra parler du film. Parce que on a eu Senna, mais Senna était mort. Et dans les autres, ça a jamais parlé d'une histoire vraie d'un pilote, quoi.
Et on peut, c'est même le premier. Voilà, c'est une vraie histoire vraie. Grand Prix, c'est quand même fictionnel. Là, non, c'est vraiment relaté des événements qui ont vraiment eu lieu. Pendant le championnat,
vous pouvez regarder Grand Prix, vous pouvez regarder Le Mans, vous pouvez regarder
Driven
avec les commentaires du SAV
avec
de la F1.
Oui.
Voilà,
vous
sur
pouvez
le site SAVF1.fr, vous aurez les commentaires.
Pas pour les mêmes raisons, mais vous pouvez le regarder.
Puis Cars et Cars 2 aussi.
Jour de tonnerre aussi pour la NASCAR.
Mais sinon sur la F1, t'as Bobby Deerfield aussi avec Al Pacino qui est pas mal. Sincèrement, c'est pas un film pour regarder pour les scènes de course. Je crois qu'il doit y avoir 2-3 scènes. C'est pas ça qu'on va arrêter. Mais c'est intéressant sur le rôle des personnages. Ça peut aussi peut-être vous préparer à Roche. Justement, avoir peut-être cette dimension, Moi, je m'attends à ce que les gens disent, oh, bah, il n'y a pas assez de scènes de course et compagnie. Ouais, non, mais non.
Ça s'annonce bien quand même, tout ça. On manque plus que le projet Prost-Senna, mais ça, on verra dans 5 ou 10 ans.
Ouais.
Ouais, pour établir la vérité sur le rôle de Prost qui n'était pas, Prost n'était pas un gros saligo.
Ah non, mais avouez quand même que voilà, on a un film sur voilà, sur Loda Hunt. S'il devait y avoir un autre film sur une grande confrontation, celle quand même qui en plus qui est citée dans les plus grandes confrontations du sport, même au-delà de la F1, un film sur Senna et Prost, ça serait ça,
ouais,
serait,
mais pas
ça pourrait être génial quoi.
Moi, c'est une question que je posais dans les interviews décalées l'année dernière. Si vous deviez faire un film sur une époque de la F1, laquelle ce serait?
Alors moi, je te dis voilà, Prost, Senna.
Tu mettrais qui dans les rôles?
Pas un acteur qui s'appelle Wall pour Senna? Pour rester dans la thématique,
Non, mais il y avait un espagnol, là, dont on parlait, ou, enfin, quelqu'un d'hispanique.
García Bernal.
Celui qui jouait, tu sais, dans 300, là. Voilà.
Ils peuvent demander à Bruno aussi, hein. Il a un planning relativement pas trop chargé en ce moment, donc.
C'est un sportif, hein, attention, on sait tout ce que ça donne un sportif, hein, qui fait de la comédie. On a tous vu les Kinder Bruno.
Non, c'est vrai que Senna Prost, ça pourrait être pas mal, avec la difficulté, ceci dit, en plus, qu'il y a quand même une rivalité vraiment sur plusieurs saisons. Ici, Prost Hunt, c'est vraiment que, que sur une année, donc.
Bah, ils disent que c'est centré sur 76, rien ne dit qu'il y aura pas un petit peu avant.
Ouais, je sais pas.
Même par exemple, Senna Prost, moi, je trouve quand même que ça serait assez compliqué et assez courageux, d'ailleurs, de la part d'un réalisateur s'y plonger, parce que mine de rien.
Et je pense déjà qu'il faudra plus de temps. Je pense qu'il faudra un peu plus de temps.
C'est qu'il y a énormément de passion autour de ça. C'est-à-dire que Loda Hunt, bon, finalement, on sent pas véritablement les gens passionnés, il y a pas les pro Hunt et les pro Loda parce que ça a pas non plus été.
Je pense que beaucoup plus de gens vont le découvrir.
Parce que là, sincèrement, Senna, je pense que le mec qui se lance là-dedans, il a intérêt d'abord de prévoir une trilogie.
Bon courage. Puis,
de s'armer de courage parce que il aura forcément des critiques, c'est obligé.
C'est Dark Wars épisode 1.
Ouais, bah c'est ce genre de truc qui se ressent déjà par rapport au film Senna qui a été sorti l'an dernier, c'est ça, ou il y a deux ans.
Ouais.
Ou c'est vrai que le portrait de Prost n'est pas forcément des plus flatteurs, quoi. Donc de toute façon, c'est un peu finalement la crainte que Dino a un peu sur Rush aussi, c'est qu'il y ait ce côté un bon et un moins bon, quoi. Alors que finalement, ils sont tous, mon avis, il y a à prendre et à laisser chez
vous.
Et
vous avez d'autres époques qui pourraient vous intéresser?
Alors moi, je fais un appel au producteur.
me parle pas de ton foutu biopic sur Michael Schumacher.
Un film intéressant au début, puis après il y a 90 minutes de chiant, et puis il y a 3 minutes d'intéressant à la fin. Le mec il gagne tout le temps, il y a jamais de problème, il y a jamais rien. Le film le plus chiant du monde. Non, moi ce serait sincèrement je trouve que c'est une histoire qui serait formidable à adapter au cinéma, et notamment qui a eu un écho et quand même un écho moderne, notamment avec le cas de Grosjean l'an dernier. C'est l'histoire de la mort de Wolfgang von Trips lors du Grand Prix d'Italie à Monza en 61, qui est issu d'un accrochage avec Jim Clark, qui est alors un pilote débutant, enfin il est vraiment au tout début de sa carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que Jim Clark, quelques années plus tard, donc on va y avoir des procès, enfin il va y avoir des enquêtes qui vont être ouvertes, et Jim Clark va être en quelque sorte inculpé, enfin il va être mis dans les problèmes judiciaires le jour où il remporte son premier titre. Donc imaginez à l'époque s'il y avait eu les moyens de communication actuels et la vitesse de la communication, mais enfin je pense que Jim Clark ne serait jamais devenu Jim Clark à notre époque, quoi. Mais toi, Gus?
Bah déjà, moi je suis pas très ciné.
Je vais écrire un livre. Si tu veux faire une chanson sur un pilote.
Une série sur Prost et Senna, voilà la solution.
Mais il est pas série non plus.
Non, ouais.
Non, faut faire un truc qu'il aime, un film sur l'effet Coanda, comment on a découvert l'effet Coanda.
Un biopic sur Adrian Newey.
Un C'est pas sorcier sur l'effet Coanda. Et dis donc, Jamy, comment ça marche l'effet Coanda?
Faut se dépêcher par contre, hein. En juin c'est terminé, je crois.
C'est vrai en plus.
Et toi, Ben?
C'est vrai que j'aime bien l'idée d'un truc sur Prost Senna, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est très très long.
Ah, c'est vrai que tu peux pas faire grand chose avec l'épisode belge, toi.
Oh, le troll.
Si,
un biopic sur un pilote belge.
Bertrand Cafigachou, il est un peu belge, hein.
Il est couvert de prix au festival du court-métrage.
La vie de Thierry Boutsen.
Ouais, il y a aussi Bertrand Gachot,
il était
en prison, etc. ça peut faire un bon sujet, tu vois, les débuts de Michael Schumacher. Non, sinon il y aurait peut-être aussi un truc à faire sur la saison que Fangio a dû faire un peu contre son gré, mais qu'il avait envie d'arrêter la compétition, et le pouvoir argentin a saisi tous ses biens, donc il n'avait plus d'argent, il a refait une saison pour regagner de l'argent parce qu'il a plus accès à ses comptes, ce genre de choses, quoi. Donc c'est aussi un sujet par exemple qui pourrait être.
Mais il y a même plein d'histoires, enfin la mort de d'Ascari, le kidnapping de Fangio à Cuba, enfin je pense que sincèrement
oui, il y a plein de
sujets. Quiconque s'intéresse au sport mécanique peut très bien trouver une situation et une histoire à raconter, quoi. Bon, il y en a qu'on invente, n'est-ce pas, Elder? Il se dit, bon, l'histoire de la Formule 1, il n'y a pas suffisamment de trucs, faut que je rajoute. Faut que je tue Fernando Alonso à la fin.
Ça se passe pas comme j'ai envie.
Ah non, c'est ça que, je vais devoir rendre à Elder, il ne tue pas Fernando Alonso. Il le rend cul de jatte et manchot, je crois, mais il ne tue pas Alonso.
Sinon, un film sur comment Maldonado va perdre son volant à la suite à la mort d'Hugo Chavez. L'ascension d'un pilote financé et la chute aux enfers.
Mais faudra trouver une petite fille pour doubler Pastor.
T'appelles ça l'homme qui valait 45 millions de dollars.
Non, mais c'est vrai que c'est
qui coûtait 45, tu peux mettre les deux.
C'est quand même terrible cette semaine, hein, vous voyez, hein, les V6, les Herrera, s'en fout. Par contre, la bande-annonce de Rush, oh putain.
Oh non, mais en plus, enfin maintenant, avec sur Internet, on a droit à des vidéos super, d'une super qualité, donc tu profites, tu mets ça en plein écran et tu baffes, quoi. C'est...
Vraiment, si vous l'avez pas vu, il y a le lien en plus sur Fan F1, donc vous pouvez voir. Il n'y a pas les sous-titrages, ça ne devrait pas tarder, mais honnêtement, c'est pas grave. Même en anglais, on comprend ce qui se passe et c'est vachement...
Là, moi, j'ai envie de faire un truc. Bande-annonce. Sincèrement, parce que moi, souvent, je vois ça à la radio. Enfin, j'entends ça à la radio. J'ai envie de passer la bande-annonce dans l'émission. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce concept de...
Donc, là,
ce concept de bande-annonce à la radio. Donc, on va essayer. On va vous mettre la bande-annonce de Rush. Et vous nous direz si vous avez apprécié le film à partir de cette bande-annonce.
It's a lie that all drivers tell themselves. Death is something that happens to other people.
What kind of person does a job like this? Each year, two of us die.
James can be a loose cannon.
Mickey's a genius setting up the cars.
I accept every time I get in my car, there's 20% chance I could die.
Being driven around 170 miles per hour? This thing's a bomb on wheels.
I'm quicker than all of you.
And let's race.
I feel responsible for what happened.
You were. Now trust me. Watching you win those races, you were equally responsible for getting me back in the car.
I'm world champion, on the verge to become world champion again.
I can beat this guy, trust me.
It's a wonderful way to live. It's the only way to drive. The closer you are to death, the more alive you feel.
Messieurs, avant d'évoquer les autres actualités, je vous propose de revenir sur le sondage de la semaine dernière, qui a eu son petit succès, hein. 197 votes, cette fameuse question, quelle couleur aimeriez-vous voir comme livrée pour McLaren à l'avenir? Et là, je me dis, les gens qui n'écoutent pas le SAV se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Alors que quand t'écoutais l'émission, tu comprenais tout à fait pourquoi on vous posait cette question.
D'ailleurs, elle est
toute
seule, la question.
Mais de toute façon, d'ailleurs, dans le titre, c'était clair, quoi.
Tu veux dire?
Oui. Et ce qui est quand même formidable, c'est que toutes les couleurs ont eu des
même
votes.
Le taupe.
Même le taupe.
Moi, j'ai voté pour le taupe.
Ex aequo avec 4 votes. Nous trouvons le vert. C'est anglais, McLaren, mais vous dites que c'est bon. Caterham a déjà du vert, donc c'est bon. Et le jaune, mais sans doute pour vous, ça fait un peu trop Jordan, donc non. Avec 8 votes, on trouve le rouge. Et là, ça fait un petit peu trop Ferrari.
Ah non, mais c'est ça énorme. Vraiment, je veux voir.
Remarque, on a déjà eu Williams en rouge.
Oui.
Ouais, c'était pas dégueu d'ailleurs, je trouve.
Oui, ouais. C'est pour ça qu'ils sont revenus au bleu et au blanc.
Ah bah forcément, quand le sponsor donne plus de l'argent.
Avec 10 votes ex aequo, on trouve le bleu et l'indigo. En même temps, c'est un peu normal, c'est un peu plus ou moins les mêmes couleurs, hein. Avec 12 votes, on trouve le taupe!
Nos auditeurs
oui.
sont
fous. Elder, c'est Elder qui a voté 12 fois.
Mais c'est pas le pire! Parce que le taupe a quand même été battu par le rose! Qui a obtenu
mais tu sais, sincèrement,
votes.
Ça, c'est une couleur qui serait intéressante sur une voiture. Je trouve que c'est une couleur voyante. C'est un peu comme le vert de Danica Patrick en NASCAR. Sa voiture, on peut pas la louper. Et ben là, c'est pareil. Je trouve que nous, sincèrement, une voiture rose, ça aurait dû cacher, quoi, dans les fins. Mais peut-être pas pour McLaren, mais pour une équipe, tenter le rose. En plus, en misant peut-être sur une communication un peu féminine et compagnie, ça pourrait être sympa.
Mais en DTM, est-ce que Suzy Wolf, justement, n'avait pas une voiture rose?
Puis parfois, en NASCAR, il y avait du rose, notamment pour tout ce qui était lutte contre le cancer du sein et tout ça. Parce que c'est un ruban rose.
Ça commence à arriver en France, d'ailleurs, ça, le ruban rose. Ça fait des années que c'est aux États-Unis, c'est même une campagne. Enfin, il y a un mois entier en NFL où les mecs portent des chaussures roses, des gants roses et compagnie. Et ça commence un peu à arriver en France.
Avec 23 votes, on trouve le noir. Là, déjà... Alors c'est vrai qu'il y a du noir dans les couleurs de McLaren, puis il y a toujours eu un peu de noir
avec un rose. Quelle couleur que ceci pas de nouveau
je dirais
la
rien.
Rose.
Ouais. Avec 27 votes. Donc finalement pas beaucoup plus que le noir. On retrouve le blanc.
C'est ça qu'il y a pas plus de voiture blanche.
Façon. Pas non, complètement blanche. Enfin si, il y avait la HRT qui était en partie blanche, mais c'était un autre problème. Il y avait les BM.
Les Stuart à l'époque aussi étaient très belles, je trouve. La Stuart de 99 était vraiment très belle, quoi.
Et donc, vous avez, alors là, pour le coup, un triomphe, hein, 41,62%, 82 votes, le orange. D'ailleurs, j'ai dit une connerie sur ça, parce que, alors, mais je le pensais vraiment. Je pensais que le orange était associé au fait que c'était néo-zélandais, parce que c'est une couleur que McLaren a utilisée dans les années 60, à l'époque, il n'y avait pas les sponsors.
C'est la couleur de la Nouvelle-Zélande en sport auto, non?
Eh ben justement non, sur le Wikipédia en cas ils indiquent que Nouvelle-Zélande c'est vert parce que Nouvelle-Zélande ancienne possession britannique et gris avec variante blanche ou gris qui ressemble à la toute première McLaren qui en 66 hein, au Grand Prix de Monaco et en variation plus moderne le noir que voilà les All Blacks le rugby le noir. Et j'ai été très surpris parce que voilà, je me disais, ouais, ils ont mis le orange dans les années 60. Parce
c'était
que,
à la mode.
Voilà, c'est la couleur de la Nouvelle-Zélande. Ouais,
c'est la couleur de la Nouvelle-Zélande. C'était à la mode.
Alors je sais pas, est-ce que c'était pour être plus voyant en tout cas, mais ce qui veut dire que pour le coup, c'est-à-dire que le orange est vraiment une couleur McLaren. Donc ils auraient tort de se priver.
Surtout qu'ils font
de
un super orange en voiture. Déjà qu'il a un peu nacré avec des jolis effets.
Oui, voilà.
Oui, et puis à chaque fois qu'ils ont une transition avec les sponsors avant de révéler leur vrai livret, leur voiture était orange en 97 et en 2005-6.
Ouais, ils ont eu, ouais. Par contre, à l'époque, l'orange était particulièrement dégueulasse, mais oui, l'orange qu'ils ont sur les McLaren de route, il est super, quoi. Ça reste un orange métallisé.
Un bel orange métallisé.
Nous enverrons les résultats de ce sondage au marketing de McLaren.
Il y a beaucoup de gens qui ont demandé pourquoi il n'y avait pas le rouge et le blanc dans le sondage.
Pour
beaucoup de gens, la couleur emblématique de McLaren, c'est le rouge et le blanc Marlboro, qui est aussi la couleur d'Alfa Romeo.
Oui, mais fumais-tu, quoi.
C'était la couleur... Et puis, c'est la couleur principale. En plus, on l'a dit pendant l'émission, c'est la couleur principale. Donc, la couleur principale, quand c'était rouge et blanc, c'était blanc.
Parce que les gens n'écoutent pas l'émission.
Principalement sur les ailerons.
C'est ça, ils lisent déjà pas les articles jusqu'au bout. Alors, une émission de 2 heures, tu penses bien.
Mais si on va passer aux autres actus. Alors, l'actu, qui, normalement, elle aurait pas dû y être, mais bon, fallait bien remplacer le pénis du Nürburgring. C'est le 12 mai. Un grand événement aura lieu. Puisque oui, 2 ans après son pari. Richard Branson fera
ça,
l'hôtesse de l'air.
Oh, oui, on s'en fout parce qu'en plus, il est même pas impliqué en Formule 1. Donc...
Mais c'est ça
qui a mis cette actu.
Ça, c'est toi, Ben.
Non, c'est moi, j'avais pas de cinquième actu, alors je l'ai mise, voilà. Mais voilà, au bout de 2 ans, on se disait que c'était oublié. Bah non, il va le faire. Ce qui est bien, c'est que les billets qui sont plus chers, je crois, au lieu sont de l'ordre 300 euros et quelques, il y aura une partie qui sera pour des œuvres. Ça, c'est toujours sympa.
Ouais, bah ouais, c'est presque l'info, ce qui est le plus intéressant dans l'info.
Oui,
parce
voilà,
que,
c'est plus intéressant, oui.
Bah non, enfin, c'est ça, Branson, il est plus du tout impliqué en F1, il a fait...
Ils ont mis 2 ans, quand même.
Je pense
hein,
que Branson aurait mieux fait de faire un pari avec Vijay Mallya. Là, au moins, il aurait pas été obligé de le tenir.
C'est pas faux, ouais. Ouais, non, Virgin, enfin, voilà, ils sont revenus, ils ont fait Mimuse, ils sont repartis, sans que personne s'en rende compte, parce qu'ils sont partis petit à petit, en fait, hein. La taille des logos,
c'est
au fur et à mesure des saisons.
Ça s'est appelé Marussia Virgin, puis ça s'est appelé Marussia.
Ouais, même dans le nom de la monoplace, le V a disparu, donc.
Sinon, Dino, tu as mis cette actu, que j'ai relu deux fois, quand même, hein. Donner des consignes n'est pas oui. dans la nature de
j'ai dit ça comme citation, et voilà. voilà, tout simplement.
On peut passer à la suite, c'est bon.
Ah mais surtout, on sent quand même derrière, visiblement, il y a une guerre des, il y aurait une guerre des chefs entre Wolf et Loda. En plus, il y a derrière les consignes qui seraient utilisées aussi comme un moyen de déstabiliser Braun pour le faire partir à plus ou moins long terme. Et c'est vrai qu'entendre Rose Braun en se défendant en disant c'est pas dans ma nature. Bon, même s'il dit concrètement c'est pas dans ma nature, c'est pas ce que j'aime faire, mais s'il faut le faire, je le fais. Bon, quand on sait qu'il a été chez Ferrari et compagnie et que même chez à l'époque où il avait son équipe, Braun, ben voilà, c'est vrai qu'il donnait pas de consignes. Il s'arrangeait juste pour que la voiture qu'il voulait voir devant soit devant. C'est pas techniquement des consignes.
Sinon, Dino, tu as aussi cité Bernie Ecclestone qui est confiant pour le Bahreïn, parce que, pas oublier, ça arrive bientôt, qui a toujours ses soucis quand même au Bahreïn.
Bah, disons qu'il y a des
visiblement,
le dialogue pour la paix est en cours. Maintenant, comme tout, il y a aussi des gens qui ne veulent pas le dialogue, et donc, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté des protestataires. Voilà, donc, pour le moment, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais mine de rien, faut quand même rappeler que l'année dernière, personne ne voulait aller au Bahreïn. Cette année, tout le monde va y aller sans rien dire, alors que rien n'est résolu. Donc c'était juste une petite piqûre de rappel. Et je m'étonne à ce que les écuries, elles peuvent pas communiquer plus, mais je m'étonne à ce que certains pilotes, notamment Mark Webber, il est peut-être un peu plus occupé en ce moment, ne fassent pas un rappel comme quoi on va au Bahreïn alors que la situation fondamentalement n'a pas véritablement changé dans le pays.
Sinon, Gus Gus, tu nous parles de Toyota, qui sera peut-être de retour. Mais
oui, c'est des rumeurs sur le site internet Club Lexus qui est spécialisé sur la marque luxe de Toyota qui affirme même que Toyota serait de retour. Alors c'est pas clair quand, en 2014 ou en 2005, sous la bannière Lexus, parce que la réglementation leur correspond mieux. Et... Alors après il faut voir la crédibilité de la source, parce que justement elle se contredit un peu dans le titre. C'est écrit 2014 et dans le corps de l'article c'est écrit 2015. Il manquerait que le feu vert de la direction, mais après, il faut voir justement si ça peut être considéré comme une source crédible.
Mais est-ce que c'est envisageable d'avoir un moteur Toyota d'endurance qui soit rebadgé pour la F1 et un peu adapté pour la F1? Est-ce que toi, je sais pas si tu connais la réglementation, mais est-ce qu'il y a des passerelles possibles?
Il doit y en avoir, oui. Il faut vraiment que je me renseigne. Les cylindres sont pas les mêmes. Alors après, il faut voir les dimensions des cylindres si c'est possible de jouer dessus, mais je sais pas si ce serait si facile que ça. En revanche...
Faut rappeler déjà que Toyota, contrairement à Audi, utilise un oui. moteur essence.
Oui,
c'est déjà un premier pas, c'est important. Oui, c'est sûr que...
Oh, la F1 diesel, ça peut être sympa.
ouais.
Mais l'idée d'avoir un moteur comme Badger Lexus, il me semble que c'était déjà sur le tapis, même avant qu'il quitte la F1, non? Enfin, c'est quelque chose qui est déjà venu... qui avait déjà été envisagé, enfin, du moins des rumeurs qui ont déjà été...
Ouais, mais ça aurait été quand même un constat d'échec. Bon, en même temps, c'est un échec, Toyota. Là, c'est vrai que, vu que c'est autre chose, il y a eu, voilà, la période où ils n'ont pas été là, c'est entre guillemets repartir sur autre chose.
Bah, c'est un peu comme Renault
voilà,
et Infiniti.
C'est un autre projet.
Oui, il y a ça aussi. Ils disent que, oui, voilà. Justement, le fait qu'Infiniti s'implique en Formule 1, ça a un peu piqué au vif Lexus.
Ça, c'est possible, ouais.
Bah, c'est pour... En même temps, vu le succès, de Toyota en F1, si c'est pour faire la même chose avec Lexus, je suis pas sûr qu'au niveau de l'image, ce soit forcément...
Après, ce serait pas forcément en tant qu'écurie qui reviendrait.
Ouais, mais après, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'il y a encore une dizaine d'années, la marque de prestige en Asie, c'était Lexus. Et que ça, depuis quelques années, cette marque-là, elle recule un petit peu, concurrencée par des marques comme Infiniti. Et que c'est vrai que l'exposition offerte par la Formule 1, voilà, alors peut-être effectivement envisager Lexus plutôt comme un sponsor ou un rebadgeage d'un moteur. Toyota, ça serait logique, mais pourquoi pas comment ça s'appelle, Zytec par exemple, le moteur Zytec qui serait rebadgé.
Oui.
Ouais, bah, rebadgé ou même financé par Lexus, quoi, mais produit par les équipes de Zytec. Ouais. Ça pourrait, ouais, pourquoi pas.
Ou le projet pur qui revient. Ah non, il sont sur Honda. Enfin, Simon, il est sur Honda.
C'est quand même pas de la merde, hein, ces rebadjages, hein, tu vois. Renault vers de l'Infiniti, Toyota vers du Lexus. Si ça se trouve, ça va être McLaren Acura.
Mais c'est vrai, Ferrari, ça restera Ferrari.
Non, Fiat.
Oui,
Mais c'est étonnant d'ailleurs que Ferrari ils aient jamais pensé à rebadger le moteur d'une des écuries partenaires avec Fiat.
C'est vrai.
Ou avec une des marques satellites de Fiat. Toro Rosso Fiat.
Ouais, les équipes secondaires Sauber Fiat.
Ouais, tout de suite là t'as l'image de la.
Attends, Sauber Alfa Romeo.
Déjà, ouais, t'as ça... plus de gueule, parce que Fiat, t'as l'image de la Punto qui arrive en pleine figure.
C'est oui, pas glamour, mais sinon tout ça, c'est que, sincèrement, aujourd'hui, les mecs de chez Red Bull, par exemple, ils sont très contents d'être sponsorisés et d'être badgés par Infiniti. Ça leur change des dernières Renault, quoi. Les attendez, mecs, ils préfèrent, quoi.
Oui.
Attendez, je viens de voir un truc. C'était un poisson d'avril, le truc. Sur le Lexus.
Le 9.
C'est paru le 1er avril.
Donc tout ce que tu nous racontes là, c'est que c'est un poisson d'avril.
C'est un poisson d'avril au départ, ouais.
D'accord. C'est bien, on s'est juste pas fait baiser, mais c'est pas grave. Il y en a qui font des articles, on fait des émissions, c'est pas grave.
Et messieurs, comme dernière actu, petite cerise, une petite cerise de fab, un peu dans le même style que la semaine dernière, c'est Barrichello qui reviendrait en F1.
Ah, c'était une citation. Ah, on voit ce qu'on avait dit à l'époque, hein. À force de trop s'accrocher, il s'est fait mettre à la porte et il regrette, hein, du coup.
Mais c'est surtout ça qui est pathétique, c'est qu'il dit « La F1 est terminée, tu l'as la citation ?»
Oui, je ne pensais pas que ce serait ma dernière course, je n'ai pas pu faire mes adieux, mon temps en F1 est révolu, mais si quelqu'un en F1 est malade, je pourrais me libérer juste par plaisir et par passion.
Mais c'est ça qui est dingue, c'est que le mec il dit « Mon temps en F1, il est révolu, mais au cas où !»
Mais j'irai quand même.
Là, il veut faire une dernière course, tu vois, de...
C'est ça qui est pathétique, quoi, enfin, sincèrement, le mec il prend conscience qu'il a plus sa place en Formule 1, mais il dit quand même « On sait jamais, il suffit... J'ai quand même pas passé pour un con. Bah oui, mais passe pour un con.
Mais même sur ses adieux, quoi. Tout le monde le disait quand la dernière course au Brésil. Tout le monde savait bien que ce serait sa dernière. Il y a que lui qui voulait absolument s'accrocher en disant non, je serai encore là l'année prochaine.
Alors, il explique qu'il a fait signer son casque de son dernier Grand Prix par tous les pilotes en disant qu'il allait le donner à une association et qu'en fait il a gardé le casque pour lui parce qu'il collectionne les casques, je crois, et qu'il a donné le pognon à l'association, mais disent non, le casque je le garde pour moi.
Ouais, c'est ça devait être vendu aux enchères pour une association, et finalement il a préféré donner l'argent et... Enfin c'est bien, il a quand même donné l'argent à l'association, donc au final c'est un peu comme si lui avait acheté son casque, quoi.
Non, puis j'adore, si quelqu'un se libère et tout, genre il est le premier sur la liste.
Mais d'ailleurs pour Lotus l'an dernier, quand Grosjean était mis à pied, il a clairement dit qu'il était d'accord, qu'il était prêt, quoi.
Un boulot de balayeur chez Caterham, il le prend.
À l'époque il avait dit Prince. C'est moi qui prends.
Ouais. S'il n'avait pas sous-entendu qu'ils avaient choisi d'Ambrosio sous la contrainte avec un flingue sur la tempe et tout, tu vois.
Mais même là, par exemple, chez Red Bull, il y a Buemi qui peut pas participer au Grand Prix de Chine puisqu'il y a le championnat d'endurance qui commence. Et même là, ils ont pas choisi Barrichello. Tu te rends compte, l'affront, ils ont préféré Félix Da Costa, un Portugais.
Ils y connaissent rien.
D'ailleurs, faut quand même noter que, enfin, rassurons les gens, il y a quand même très peu de chances que Félix Da Costa pilote la Red Bull ce week-end. Admettons, par exemple, Weber est malade. Admettons, hein. Ils vont pas mettre Da Costa à la place de Weber. Ils vont sans doute choisir l'un des deux pilotes Toro Rosso, qui mettront dans la Red Bull, et mettront Da Costa chez Toro Rosso. Ce qui mettra bien de la pression sur les pilotes Toro Rosso.
C'est sûr que si vendredi ils disent, Marc, tu roules pas aujourd'hui, ça va pas du tout mettre de lui sur le feu, rien que dalle. Donc voilà, c'était tout pour les actus. Messieurs, cette semaine, qu'avez-vous envie de proposer à nos chers éditeurs?
Mais on pourrait peut-être leur faire un sondage sur la bande-annonce de Rush. Un truc genre
mettre une note
sur la bande-annonce ou je l'attends un peu beaucoup passionnément, à la folie, pas du tout. Enfin voilà, un truc dans le genre, quoi.
Ouais. Comment on pourrait présenter ça? Une question simple, limite à ce que ce soit oui ou non, est-ce que la bande-annonce de Rush vous donne envie d'aller voir le film?
De la nuance. Enfin, c'est pour ça que l'idée du un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout, ça peut être justement voir s'ils ont vraiment hyper kiffé la bande-annonce, ou sinon, j'attends pas du tout, tu vois, ce type de film ne m'intéresse pas, moi j'aime le vrai sport auto... Moi, le sport auto au cinéma, franchement, je trouve que c'est hyper dépassé.
Attends, arrête de parler comme ça, ta gueule. 5 minutes, hop.
Mais j'ai ma
citation après.
Non, j'ai ta chambre.
Donc, cette semaine, on va vous proposer en sondage la bande-annonce du film Rush. Vous allez le donner envie de voir le film. Vous avez le choix entre un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou pas du tout, c'est un futur navet.
Ah, c'est pas mal, ça.
Mais si, on va passer aux citations de la semaine. Alors, est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous en avez encore une? Bon, Gus Gus, t'en avais une.
Oui, je l'ai donné. Hein.
Oui, voilà. Ben.
J'en ai une. Ouais. Donne la tienne, j'en reviens.
D'accord.
Donc pendant que j'ai une longue tirade, j'essaye de sélectionner le morceau.
C'est une citation de Claire Williams. La discipline est peut-être perçue comme étant dominée par les hommes, mais cette perception commence à s'effriter maintenant. C'est pas grave, de toute façon, tu peux pas parler, donc c'est pas grave que je te la pique.
Bah justement, pendant que t'es réduit au silence, va en chercher une autre. Allez. Ah, c'est con, hein. Il faut pas faire des imitations de merde pendant l'émission.
Non, mais on peut peut-être lever son...
Non, mais non. Il y a des règles. En plus, c'est lui qui a instauré le ta gueule.
On coupe la poire en deux, il aura 2 minutes de ta gueule plus tard.
Alors. Est-ce que tu veux négocier ça? Oh. Tu peux parler, mais à un moment, t'auras 2 minutes plus tard. Comme ça laissera un peu de temps à Ben couper son truc.
Réflexion est intense.
Mais c'est super drôle quand même le tagueur, parce que tu vois là par exemple, je pourrais parler du scénar de BioShock Infinite, il pourrait rien dire.
Bah sinon j'ai ma citation.
Ouais, non, hein, tu dis rien, sinon je te tague. C'est mon cadeau d'anniversaire, alors tu dis rien. Tu n'as pas le droit, je pourrais te tuer si je dis. Rappelle-toi, j'ai une Clio. Grise. Avec des morceaux de quiche dessus. Donc je pourrais t'avoir.
Non mais il meurt à la fin, t'inquiète pas.
Donc ouais, moi c'était, je vous remercie pour cette petite parenthèse. J'assumerai mes 2 minutes, même 3 minutes s'il faut. C'est pas grave. Mais en plus là c'est pour vraiment vous rendre un hommage parce que, la semaine dernière dans l'émission vous avez parlé de Claire Williams. Et moi quand j'avais proposé cette actu-là dans mon top 5, c'était notamment sous l'angle que c'était encore une femme qui arrivait à d'importantes fonctions au sein d'une équipe. Elle est adjointe à la direction de l'équipe. Et justement, ce qui était intéressant dans l'émission, c'est que fondamentalement, vous n'avez pas du tout abordé la question sous cet aspect-là. Vous avez traité Claire Williams comme un homme, finalement. Vous avez parlé du fait que c'était plutôt une héritière, de vous être posé des questions sur qu'est-ce qu'elle allait gérer, qu'est-ce qu'elle allait changer exactement. Et ça, c'était quelque chose de vraiment très bien. Et c'est ce qui est un peu dommage avec la déclaration de Claire Williams, c'est que du coup, elle se remet un moment, alors même que finalement on la voit plus comme une femme et comme la nouvelle dirigeante de Williams, elle se remet un petit peu dans la peau d'une femme, elle rappelle un peu à tout le monde que c'est une femme, et c'est justement ce qui était bien dans l'émission la semaine dernière, c'est que il n'y avait pas cet aspect là voilà.
Donc, mais c'était... après c'est toujours pareil, est-ce que c'est le journaliste qui l'interroge, qui lui dit oui vous êtes une femme etc quoi.
Là en plus on prend que toujours... la citation, faudrait voir, oui en effet
ouais, la question là, qui sont vous êtes une femme oui vous allez voir les choses vont changer.
Last time I checked, yes, I was.
C'est bon, t'as coupé tes trucs, Ben.
Ouais, non, j'ai ma citation, mais moi, c'est une citation, je viens de voir que c'était l'anniversaire de Jacques Villeneuve aujourd'hui, donc le jour où on enregistre, donc forcément, pour lui rendre hommage, je vais prendre une citation de lui.
Pas tellement.
Un peu un vieux sujet de début de saison qui a fait parler beaucoup de gens autour des pilotes payants, et Jacques Villeneuve dit ceci. Combien de pilotes, depuis quelques années, sont arrivés en F1 par leur seul talent, sans payer? Ricciardo et Vergne sortis de la filière Red Bull, Grosjean repêché par Boullier et Total, Bianchi tenu à bout de bras par Nicolas Todd, la Fédération Française du Sport Auto et Ferrari, qui fait un bon boulot, mais grâce à la chance miraculeuse qu'un poste se soit libéré chez Marussia. Je ne vois pas comment un jeune talent peut éclore aujourd'hui. Voilà, donc c'est une citation de Jacques Villeneuve.
Mais...
Un peu dans
mais ça a du sens en plus.
C'est pas la plus méchante qu'il ait faite, comme c'était son anniversaire aujourd'hui.
Non mais il dit plein de trucs, il dit oui, je vois bien Raikkonen jouer le titre. Jacques, c'est pas ce que tu disais il y a quelques mois.
Ouais, enfin c'est un peu comme Loda, il raconte tout et n'importe quoi, mais bon c'est pour ça aussi qu'on l'a choisi chez Canal. Parce
mais est-ce qu'il regarde les formules de promotion surtout en disant ça? Il y avait la formule Renault ce week-end, on a quand même vu des...
Cocorico.
Ah oui, de Cocorico, les Belges, il y a aussi des
coques en Belgique.
Non mais bon voilà, Cocorico quand même. On va pas dire la frite, oui. Tu vois.
Il fait le cri de la frite.
Parce que ouais, on a des Van Dorn, des Dacosta qui ont l'air très prometteurs. Alors c'est sûr, on n'y arrive pas tout seul. Van Dorn, il est soutenu par McLaren, Kevin Magnussen aussi, je crois.
Et donc Spoko, ça reste conforme à ce que dit
Van Dorn. Van Dorn, c'est
voilà, il y a quand même une aide derrière.
Non mais
oui d'accord mais t'y arrives jamais ouais, sans aide de toute façon si t'as pas un seul sou.
Oui, là on va parler de Van Damme et de Dacosta mais ça c'est la génération d'après. Reprenez Grosjean, Bianchi, Pic et Vergne, ils étaient au top dans leur championnat. Ils sont pas venus en Formule 1 quand ils citent ces pilotes là, ils sont pas venus en Formule 1 juste grâce à leurs sponsors ou alors ils y sont venus bien avant. Mais déjà en GP2 et compagnie, les mecs ils étaient au top. À la limite quitte à prendre des pilotes autant taper sur Chilton et compagnie. Ou alors ce qu'il a voulu non, dire mais... c'est peut-être de dire là, de toute façon tous les pilotes
pas dessus,
ils
hein.
arrivent en ayant du soutien.
Bah, je pense, moi, je le vois
là,
comme
ça. Là, il tapait pas dessus. Là, il tapait pas dessus sur les gens qu'il a cités, justement. Il disait, Bianchi a un certain mérite, Vergne et tout ça, et Grosjean, ils étaient au niveau, etc. Après, oui, c'est sûr, il prend pas les exemples inverses de, bah, Chilton n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe non plus, Il était dans les 5 premiers du GP2, quoi, mais c'est pas plus, quoi.
De toute façon, c'est clair que tu n'arrives pas sans argent. Enfin, même si Van Dorn, il fait un premier week-end dans World Series, un très bon premier week-end, mais il l'a dit lui-même, s'il n'avait pas été champion en Formule Renault 2.0 et qu'il n'avait pas reçu, parce que le champion de cette catégorie-là reçoit un financement pour la saison en Formule Renault 3.5, je crois que c'est 500 000 euros, sans cet argent-là, il ne serait jamais passé à la catégorie supérieure. Il n'aurait pas pu. Donc forcément, quand tu gagnes une catégorie, il faut aussi que tu aies un soutien financier derrière, sinon.
Et surtout, c'est que
tu arrives pas. Quoi.
Surtout venant de sa part, c'est aussi, il le sait parce qu'il a essayé en NASCAR et qu'en NASCAR il a jamais réussi à réunir les fonds. C'est pas propre à la F1, c'est de tous les sports, les sports mécaniques. Il y a cette problématique là. Si tu veux accéder à un volant, il faut certes avoir du talent, mais il faut aussi amener du pognon. Et Jacques Villeneuve, qui est quand même champion du monde de Formule 1, qui a quand même une certaine crédibilité. Il a même pas réussi à réunir des fonds en NASCAR, ne serait-ce que pour faire des courses régulièrement en Nationwide.
Oui, est-ce que Loeb, par exemple, voulait participer, je crois, aux 24 heures du Mans avec sa formation avec laquelle il court en GT. Il me semble avoir
brièvement,
pas approfondi le sujet, qu'il n'avait pas réussi à retrouver les fonds. Donc pourtant, il est quand même 9 fois champion du monde en rallye. Voilà quoi. C'est pour ça que moi, personnellement, je vais faire mon show 22 minutes, mais sur Van Dorn, d'abord, je suis très content qu'il ait fait un bon week-end, et puis surtout qu'il est soutenu par McLaren, où là, a priori, les performances en piste priment sur le portefeuille que tu peux apporter.
Il y a un beau duel McLaren-Red Bull cette année en World Series by Renault.
Ouais, parce que c'est Dacosta qui a gagné la deuxième course. Il a abandonné dans la première suite à un problème de pneu, je crois. Et sur la deuxième, il gagne et Van Dorn fait troisième derrière Magnussen, qui est aussi un pilote soutenu par McLaren. Surveillé par McLaren.
Allez, vas-y, chante nous l'hymne belge, Ben.
Non. Hein? D'abord, je ne chante pas. Il fait déjà dégueulasse comme ça chez moi. Il fait nouille en Belgique.
D'ailleurs, je tiens à dire à nos amis réunionnais, soyez patients.
Ah oui.
Parce qu'il y a des Réunionnais qui se réjouissent quand je ne suis pas là.
Mais alors cette semaine, c'est la totale. Hein.
Ah oui.
D'ailleurs, je vous propose de passer au répondeur du SAV. Et déjà, faut qu'on revienne sur une demande de Victor la semaine dernière.
Ah, Victor.
Ah oui, ça m'a fait... Ah oui, d'accord, donc ouais.
Victor, dans sa... Voilà, il s'est dit, je vais poser une question, mais aussi je vais demander quelque chose qu'on n'a jamais entendu au SAV de la F1. Pas du tout. Hein. Victor, il a demandé simplement, gentiment, Dino, pourrais-tu me faire plaisir? Pourrais-tu m'amener dans des hautes sphères de plaisir?
Et c'est là que j'utilise les deux dernières minutes de mon ta gueule.
En plus, c'est dégueulasse parce que j'allais justement lui dire que je ferais peut-être ça la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais que je ne gâchais pas l'hymne italien comme ça pour faire plaisir à un auditeur. Mais je prends les deux minutes, c'est pas grave.
C'est pas grave. Eh bien, dans ce cas, on va passer aux questions de Maël. Aux questions, parce que oui, Maël nous a envoyé un mail avec deux questions. Oui, Maël. On va traiter les deux questions.
Bah non,
parce que la deuxième question, elle est traitée par Dino.
Mais c'est pas grave. Je peux y répondre aussi.
Il s'est pris la peine de la préparer. Moi, je veux entendre ce qu'il a préparé. Je suis désolé.
Ah, c'est vrai que je pense que Schumacher avait donné une explication très sympathique sur ce sujet. Mais on va y revenir.
Je suis gentil avec toi, Dino. Et puis, tu pourras profiter quand même de la deuxième couche, hein. Parce que oui.
C'est le cas de le dire.
non, mais. Yeah. Ça va parler beaucoup liquide. À plein de titres. Même eux n'imaginent pas. Y'a que moi.
Mais on va boucler la boucle, hein.
Y'a que moi qui suis au courant de tout dans ces histoires. Et donc, Maël se posait une question. C'est vrai qu'on l'avait évoqué brièvement, elle souhaitait savoir à quand remontait le dernier drapeau noir avec un cercle orange.
Alors, rappelons ce qu'est ce drapeau. Il fait partie des drapeaux officiels hein, de la réglementation de la F1. Il fait partie de ces drapeaux qu'on voit peu souvent, hein, contrairement aux drapeaux habituels. Hein. Il pourrait les sponsoriser par Benetton. Ce serait une bonne façon de récupérer de l'argent. Hein. Donc, outre les drapeaux jaune, vert, rouge, bleu ou catalan, enfin, rouge et jaune, mais voilà. Il y a donc ce drapeau noir, mais avec un rond orange, qui est habituellement accompagné d'une présentation d'un numéro de voiture, et qui avertit d'un problème mécanique dangereux sur le véhicule, et qui donc intime l'ordre au véhicule de rentrer au stand.
Tu parles du drapeau qu'ils auraient dû montrer à Fernando Alonso en Malaisie, c'est ça?
Voilà. Ils ont pas eu le temps, quoi.
Mais en règle générale, on le voit assez peu, parce que... En règle générale, les équipes renvoient leur voiture au stand avant que le drapeau apparaisse.
Ou prennent le pari.
Ou prennent le pari. Donc, est-ce que vous avez une idée de quand on a vu pour la dernière fois ce drapeau?
Moi, j'ai pas souvenir, alors que ça doit faire un bail, ou alors...
Moi, sincèrement, c'est vrai que j'ai pas souvenir de l'avoir vu en quoi, plus ou moins 15 ans.
Pourtant,
donc,
tu l'as raté.
Ah mais ouais, je l'ai peut-être raté hein, mais
Eh bien, faut remonter à une époque pas si lointaine, c'est au Grand Prix d'Italie 2009 et c'était Robert Kubica qui avait été concerné. Oui, il y avait eu en fait une collision.
Il avait un bras qui pendait.
Il y avait eu une collision entre Mark Webber et Robert Kubica au premier tour hein, du Grand Prix d'Italie.
C'était pas un problème de nez
oui,
justement.
Oui, voilà, c'est-à-dire que voilà, c'était Mark Webber lui avait directement abandonné et donc c'est au que je ne me trompe pas. Il a quand même tenu 4-5 tours hein, avec son aileron avant que la direction de course lui dise rentre. Comme quoi, c'est possible. Tu disais, Dino, oui, il peut faire le pari. C'est possible, ouais. Visiblement, de faire plusieurs tours avec un aileron avant défoncé. Donc, rappelons, voilà, que c'est un drapeau qui est un drapeau d'avertissement. Alors, j'ai aussi regardé les autres drapeaux avec du noir, hein, faut bien le dire, hein, qui sont quand même des drapeaux. Vous avez plus de chances de les voir en juin et fin 2012 qu'en vrai. Hein, faut bien le dire. Enfin, au moins un des deux, hein. Puisqu'il y a le drapeau noir et blanc, hein, qui est noir et blanc coupé au milieu en diagonale, alors qui est lui aussi un drapeau d'avertissement, donc quand on le voit, il n'y a pas sanction, qui est le drapeau, en fait, pour comportement antisportif. Vous savez, quand vous jouez à F1 2012, c'est celui où quand vous sortez légèrement vos deux roues de la piste, hein, le jeu vous dit « Attention, tu coupes la piste !» Et tu fais...
Ouais, mais c'était pire dans le 2010, quand j'ai ressorti le 2010, il n'y a pas longtemps.
C'est chiant quand même, merde, j'ai même pas perdu, j'ai gagné de temps.
En vrai, ils font tous, ils prennent tous cette
trajectoire. Ouais, mais non, pas dans le jeu. Et donc, ce drapeau-là est un avertissement, et par contre, si on te présente une deuxième fois ce drapeau, c'est le fameux drapeau noir. Et alors là, on remonte à une période plus récente, puisque c'est...
Ah, Montoya en 2004, à Indianapolis.
Eh ben, il y a plus récent, il y a en Malaisie 2010, c'était Lewis Hamilton qui s'était, on va dire, bien défendu devant, que je me trompe pas, contre Petrov, voilà.
Ah, Petrov,
ouais. Voilà,
faire du wheeling.
Non, noir et blanc.
Il y avait eu un drapeau noir pour ça?
Non, sinon, je précise, le noir et blanc.
Oui. Noir et blanc, oui.
Parce que moi, ouais, je parlais du
le
noir.
Alors, c'est mon
non, sinon, ça aurait été raciste.
Je parlais du drapeau noir.
Voilà, le noir et blanc, il est là une fois, donc il n'y a pas eu de souci. Voilà, je dis bien, c'est un drapeau d'avertissement.
Ouais. Mais le drapeau noir, effectivement, moi, j'ai souvenir que ça
alors, y en a eu un,
à Montoya aussi, mais pour l'année.
À noter l'anecdote pour Lewis Hamilton, c'est qu'un an plus tard, il a fait la même chose avec Alonso, et là, il s'est pris 20 secondes de pénalité.
Ah, il y a des choses qui ne se font pas, hein. Il y a une hiérarchie, hein.
Il y a le drapeau noir. En effet, Montoya en avait eu un. Mais il y a un cas un tout petit peu plus récent. C'est au Grand Prix du Canada 2007. Le Grand Prix du Canada 2007.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, les feux, exactement. Il y a eu un accident d'Adrien Sutil aux environs du 22e tour. Et vous souvenez, en plus, c'était l'époque où la réglementation au niveau des feux, c'était bordélique. C'était n'importe quoi. Massa et Fisichella est là. À ce moment-là, je pense qu'ils devaient déjà être dans la ligne des stands, donc ils sont sortis, mais les feux étaient rouges, donc ils n'ont pas eu le drapeau noir tout de suite, ils l'ont eu au 51e tour. C'est-à-dire qu'ils sont quand même mis 30 tours pour se dire, attends, ils ont grillé le feu rouge. Qu'est-ce qu'on fait?
Mais parce que même eux comprenaient pas la règle.
Faut dire aussi que c'est un grand prix, je crois qu'ils n'ont été que 10 à finir le grand prix. Voilà.
Et il y a eu une situation similaire après, mais il n'y a pas eu le temps d'avoir le drapeau noir parce que ils ont vu après la course que le feu avait été que c'était Barrichello en Australie 2008. C'est arrivé tard dans la course, du coup il a pas pris de drapeau noir, mais il a été exclu de la course parce que il avait grillé le feu.
Donc voilà, pour ces... Fort heureusement, ça arrive quand même assez rarement, mais finalement c'est plus proche de nous. Moi aussi je pensais que j'allais retrouver des cas de 10 ou 15 ans, voire plus, et en fait bah non, quand même pas. Mais c'est vrai que souvent comme il file plein de pénalités, au final les drapeaux sont pas forcément utiles, sachant qu'il y a aussi eu des disqualifications après course, hein. Mais là c'est autre chose.
Oui. Mais c'est vrai que l'intérêt du drapeau avertissement, si c'est un avertissement avant l'exclusion, c'est bizarre que ce soit toujours utilisé, alors que maintenant, ouais, effectivement, on met des drive-thru ou des pénalités comme
ça. En plus, c'est vraiment précisé pour conduite antisportive. Donc c'est vraiment, voilà. Alors à noter, il y a un dernier drapeau, hein, qui est quand même à connaître. C'est le blanc. Donc lui, c'est pour présence sur la piste des secours d'un véhicule lent ou d'un véhicule d'intervention.
Ouais, c'est pas pareil qu'aux États-Unis.
Donc là, je sais pas quand, mais parce que je sais pas s'ils l'utilisent, tu sais, quand il y a un accident entre guillemets simple, ou si c'est vraiment quand il y a des trucs majeurs, genre Perez à Monaco, quoi.
Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est quand il y a un véhicule, il y a quelque chose qui roule sur la piste, mais qui est super lent, genre après une crevaison ou un truc dans le genre. Quand il y a quelque chose d'arrêté, bah ils sortent deux drapeaux jaunes en même temps pour dire au pilote de ralentir.
Donc voilà, c'était pour les drapeaux, les derniers cas, hein, de ces drapeaux spécifiques quand même d'avertissement, où en règle générale, c'est mauvais signe quand on les voit. Et donc Maëlle a posé une deuxième question.
On la remercie déjà d'ailleurs pour cette question très pertinente.
Parce que c'est vrai qu'en plus il y a des choses, bon on peut pas vous l'expliquer parce que c'est des privés de jokes, mais... Il y a des choses qui circulent, on va dire, des privés de jokes qui circulent entre gens du SAV... Elle l'a mis en PS, hein. Je me suis posé une question totalement décalée et je me suis dit que seul le SAV de la F1 pouvait y répondre. C'est vrai. Y a que le SAV de la F1 qui peut y répondre.
Hein, je connais des gens qui se sont risqués.
Comment font les pilotes quand ils ont envie de faire pipi pendant les courses? N'est-ce pas, Dino? Tu vas nous expliquer, hein? Comment font les pilotes quand ils ont envie de faire pipi?
Tu vas nous montrer,
tout à fait.
À quoi crois-tu qu'elle sert, la gourde?
Alors, Maël, avant tout, je tiens à te dire merci. Car tu me donnes là l'occasion de résoudre l'une des plus grandes questions qui ait agité l'humanité et qui a pourtant dissuadé tant de philosophes. En effet, tu l'auras sans doute toi-même constaté, alors qu'Emmanuel Kant a préféré s'adonner à la critique de la raison pure, alors que Spinoza cherchait à concilier le déterminisme et la liberté, et alors même que Descartes pensait, et donc était, aucun des grands philosophes de l'histoire et de notre temps ne s'est penché sur cette question pourtant ô combien fondamentale, comment les pilotes font-ils pour pisser ?
Je précise en course, parce que en dehors de la course, ils savent aller pisser, hein, on est d'accord.
Mais justement, moi je vais laisser les explications du type il ouvre sa braguette, il sort son zizi et il se détend au philosophe de bas étage pour m'intéresser au fond du sujet. Je pense d'ailleurs qu'il est fondamental, pour répondre à ta question, Maëlle, de revenir sur le mécanisme de miction qui, comme son nom ne l'indique pas, consiste à expulser de l'urine en dehors de la vessie par le biais de l'urètre, qui, la boucle étant bouclée dans cette émission, se situe chez l'homme dans le pénis.
Tout est lié dans cette émission.
Je savais que j'aurais dû garder mon tag.
Alors, il s'agit avec la défécation et avec la transpiration.
Ah bah bien sûr.
Ami Brett, bonjour. D'un des processus d'élimination des déchets corporels, ainsi qu'un moyen de maintenir les constantes de l'organisme grâce à la régulation des quantités d'eau et de sels minéraux qui sont éliminés. Donc, à moins de souffrir d'anurie, à ne pas confondre avec l'anurie, symptôme qui se retrouve chez certains pilotes et pas seulement. Les pilotes de Formule 1 sont comme nous soumis à ces envies pressantes qui se déclenchent généralement 4 à 8 fois par jour. Tu auras toi-même fait le calcul, Maël, ça représente donc une miction toutes les 3 à 6 heures, en sachant que la nuit on peut tenir facilement 6 à 8 heures sans uriner, ce qui explique le pic de fréquentation des toilettes qui a lieu le matin. En prenant leurs précautions avant le départ, il y a ainsi très peu de chances que les pilotes soient pris d'une envie pressante pendant le déroulement de la course ou de toute autre séance durant le week-end, puisque sauf circonstances exceptionnelles, celle-ci n'excède jamais les 2 heures. D'ailleurs, de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu de pilote qui se soit arrêté sur le bord de la piste pour trouver un petit coin ombragé et à l'abri des regards indiscrets pour faire sa petite commission. Ainsi, généralement, les pilotes profitent des quelques minutes qui séparent la mise en grille de leur monoplace et le départ du tour lancé pour faire un passage rapide par la case toilette où, rappelons-le, Jean-Louis Moncé rôde. Il s'agit même souvent de quelque chose qui leur est rappelé par leur ingénieur, d'abord parce qu'on a tous sensation de légèreté après une pause pipi qui n'est donc pas sans représenter un intérêt pour les ingénieurs qui sont en quête du moindre gramme à économiser, mais aussi pour des raisons de sécurité. En effet, en cas d'accident sinon la vessie peut être amenée à exploser, et si elle est pleine, alors là c'est beaucoup moins drôle, ça peut être source d'infection ou de dégâts au niveau de l'intestin, nécessitant une intervention chirurgicale, et dans des cas extrêmes, ça peut même être cause de décès. C'est quelque chose qui est vrai à la fois en compétition, mais aussi pour nous sur route, puisque la ceinture de sécurité au niveau ventral peut être un facteur d'explosion de la vessie lors d'un accident. C'est pour cette raison que je vous invite à faire une pause pipi avant tout long trajet. Donc pour en revenir à nos pilotes de Formule 1, parce que c'est là le sens de ta question, même s'ils ont à leur disposition durant la course une gourde de boisson d'un litre et demi, cela ne suffit même pas à compenser la perte de liquide par transpiration et ne remplit donc pas suffisamment la vessie pour déclencher le seuil de l'envie. D'autant qu'il faut compter plusieurs heures après l'ingestion d'un liquide pour que l'on ressente le besoin d'uriner. Alors, je te rassure, Maël, tu pourras probablement aller enlacer ton pilote préféré lors du prochain Grand Prix sans craindre les mauvaises odeurs ou d'éventuels problèmes d'hygiène. Sauf si, comme certains pilotes, il aime rester très longtemps dans son cockpit avant la course pour se concentrer sur l'épreuve qu'il s'apprête à subir, auquel cas il aura tout simplement fait pipi dans sa combinaison, l'urine étant évacuée par des petits orifices normalement prévus pour évacuer l'eau de pluie. D'après certains témoignages, d'ailleurs, ce n'est pas sans créer la panique parmi les jeunes mécaniciens, lorsqu'un pilote se soulage dans son box quelques minutes avant le départ, je vous laisse imaginer la scène. Donc voilà, Maël, après cette brillante démonstration, je pense, tu en conviendras, que Kant, Spinoza et Descartes peuvent certainement aller se rhabiller.
Je rajouterais que dans ces cas-là, l'écurie auquel on est a quand même une incidence, c'est-à-dire que faut quand même être mieux chez Ferrari ou Sauber que chez Mercedes ou McLaren.
Pourquoi ?
Bah, tu vois leur couleur de combinaison ?
Oui.
Bah c'est blanc.
Merci Shiji.
Le mieux pour ça c'est Lotus hein.
Bah tu crois qu'il gèle chez Lotus ?
Quitte à être poète.
Kimi il a l'air en sueur. Il a l'air. Alors faut savoir qu'on a posé la question récemment à Neeran Kartikeyan et il a dit que c'est vrai, il y a toujours l'idée de bah les pilotes se font dessus. Il a dit que lui ça lui était jamais arrivé, mais que oui ça arrive quand t'as une envie pressante et que t'es en pleine course. Bien évidemment, t'es pas à ça près.
Ouais bah c'est Schumacher qui avait dit ça il y a autant de sa grandeur. Voilà, s'il y a besoin, il se pissait dessus. Et puis, de toute façon, avec la chaleur du cockpit, ça s'évaporait très très vite. Donc,
et en plus, même, de toute façon, avec ce que les pilotes boivent, puis avec aussi la santé des pilotes, il y a très peu de chances aussi qu'un pilote se pisse dessus et que derrière, vous le sentiez vraiment. Puisque c'est des boissons vitaminées et compagnie. Même ce qu'ils ont dans la voiture, c'est pas de l'eau. Hein, c'est vraiment une boisson énergétique et compagnie. Donc, tout vraiment, il n'y a pas véritablement de déchets qui sont à l'origine des mauvaises odeurs de l'urine. Donc
ouais, puis, de toute façon, même sans ça, ils sont pas des plus frais quand ils descendent de leur voiture. Oui. Ils ont transpiré comme des...
Sinon, Dino, pour ce répondeur, alors, oui, ami réunionnais, il va quand même faire moche chez vous. Est-ce que tu avais préparé un petit quelque chose ?
Bah oui, je me devais de répondre à Gus Gus. Voilà. Bon, le ta gueule, je vais attendre. Je me devais de répondre à Gus Gus. Je tiens d'ailleurs à dire que techniquement, cet extrait devait être passé la semaine dernière.
Oui.
Mais... Sauf que je suis dit, ne lis pas les mails.
Oui, voilà. Donc, mais c'est plus drôle, là, au moins, Gus Gus est là, t'es là.
Quand tout le monde roule tranquille, il vide son réservoir. Par peinard pour livrer le combat. À l'autre bout de la ligne, sous le muret des stands, y'a Christian qui me demande, renonce à la victoire. Alors, ce sentiment de me faire avoir, quand ma radio résille. Quand ma radio résille, qu'on me prive de laurier. Donne des consignes en croyant que je les entends. C'est pas à être possible. Revit elle le guépard. Je sens l'odeur du sang de marque sous le reculoir. Alors, je vois mon équipe se faire voir dans ma radio grésille. Moi, tout ce que je veux, c'est être heureux. Et être champion autant que je peux. Faire aussi bien que Schumacher dans son temps. Moi, tout ce que je veux, c'est être heureux. Et être devant numéro 2. Je n'ai pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Quand la radio grésille, je vous dirai pas de bobard. Je suis prêt à être viril, la ruée dans les bancards. Faire une béquille, un copain.
copain de boulot a passé pour le salaud à la toute fin d'histoire. Je suis prêt à me la jouer à la hussarde. Ma radio grésille. Se porte dans ses miroirs quand le grand Marx promène espoir sur un boulevard. Je ne suis pas servile, je donne des coups de foutoir. Ça vous paraît débile, mais moi je joue la victoire. Du moins, c'est ce que retiendra l'histoire quand ma radio grésille. Être heureux, être champion autant que je peux, faire aussi bien que Schumacher dans son temps. Moi, tout ce que je sais être
heureux, moi je veux la vie de Ben.
Être devant le numéro 2. Je n'ai pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. 3 ans que je te domine, et t'as près de 40 ans. Espèce de vieux fossile, je suis un débutant. Tu me fais peine à voir, tu crois peut-être tout casser. Mais regarde-toi dans le miroir, toi c'est déjà trop tard. Crois-moi, je suis prêt à tout pour la victoire. Tu t'as passé pour un crevard. Et mettre la morale au placard, ma radio grésille. Oh yeah.
Ma radio grésille.
Du coup, faut attendre que Ben ait fini.
Ouais,
je... Donc Ben, quel est ton avis sur,
Écoute, j'ai écouté, putain, j'ai même pas le temps, c'est déjà là. J'ai les 3 premières secondes, la musique est pas mal.
Je joue bien du santé, hein.
Compliment à l'artiste.
Bah écoute.
C'était un peu ta réponse à Gus Gus.
Oui, bah sans le talent de guitariste, oui. Hein, parce que...
Ah, attends, voilà, moi, attendez, me dis dans l'oreillette, les auditeurs ont voté entre toi et Gus Gus,
tête de suspect.
Et qu'ils ont choisi... Ah, ils ont choisi Sophie Tite quand même, en fait.
Oui. Ils ont choisi le suicide.
C'est ça qu'on aurait dû mettre comme sondage.
Bon, voilà, je... puis c'est aussi... Bah, je me suis mis dans le corps de Vettel pour cette chanson.
Ah ouais, ouais. Littéralement ou...
autant que j'ai pu...
Alors Gus Gus, est-ce qu'il y aura une réponse à la réponse?
Il faut voir.
Bon, on peut déjà dire qu'il y a un projet de duo.
Il y a un duo qui viendra peut-être, ouais. Qui viendra.
Bon, je sens qu'ils vont être nominés pour le SAV d'or du Running Gag 2013. Avec la famille d'Elder s'incruste dans le SAV.
Donc voilà, maintenant on attend Fab, Elder, Jennifer, Ben, Shinji.
Ouais. Oh, moi, vous pouvez
m'attendre. J'ai chanté, j'ai fendé les gars, hein.
Oui, non, pas, une vraie chanson. Pas un truc,
De sinistre mémoire.
En plus, je tiens formellement à m'excuser auprès de Daniel Balavoine. Et de tout artiste digne de ce nom.
Oui, voilà.
Donc non, Christophe Maé, je ne m'excuserai pas.
On va passer à la suite. Non. Oui, non. Je sais pas, oui, je suis tellement abasourdi par la chanson que...
En bien ou en mal?
C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas. Bon, reprenons nos esprits. Est-ce que quelqu'un a un débat cette semaine? Non. Vous avez le droit de dire non.
J'oublie toujours
de... Moi, j'en avais envoyé un dans le mail que tu n'as sans doute pas lu, de toute façon. Donc on
si, si, j'ai lu, mais si t'as envie, s'il y en a un justement qui te plaît vraiment...
Bah là, je sais pas, je me rappelle celui sur...
Il y avait Helmut Marko, et je sais plus lequel le deuxième. Quoi.
Voilà, peut-être le lien avec Helmut Marko, ça peut se faire.
Si pour ou contre le hooliganisme.
Si on peut terminer l'émission, hein.
Et on a assez de matériel.
Déjà, vous rappelez que pour le répondeur, comme d'habitude, vous avez le choix, soit les messages audio, c'est via le site savf1.fr, il y a un module pour enregistrer votre demande. Sinon, il y a l'adresse mail, répondeur@savf1.fr. On vous rappelle que pour la semaine prochaine, il y a le concours.
Shinji, permets-moi juste quand même de dire que, on répondra pas à la question comment les pilotes font caca.
Non, non, c'est bon.
Imaginez, d'accord, faites preuve de...
Vous êtes sympas, les gars, on a parlé de pénis, de pipi, là, c'est bon, quoi. Aujourd'hui,
On a fait l'émission de la saison.
Et Elder n'est même pas là!
On vous rappelle pour la semaine prochaine, la question du concours. Non, faut que je me prépare, parce qu'elle est... Ah.
À force, on la connaît, cette question.
Le premier pilote chinois à avoir roulé lors d'un week-end de Grand Prix a fait partie de plusieurs équipes de Formule 1. Quelles sont les couleurs communes aux drapeaux nationaux de ces différentes équipes? Par nationalité, on entend bien sûr parler de la licence.
Dans ce flingue,
pour répondre, eh bien, n'oubliez pas, vous mettez votre réponse, vous mettez une question que vous allez, que l'on va soumettre à Dino, ainsi que sa réponse, c'est plus pratique, et vous nous envoyez le tout sur l'adresse concours@savf1.fr.
Mais tordu, ça a l'air de marcher.
Ouais, ouais.
Et puis, sincèrement, réfléchissez juste un tout petit peu. Il y a quand même une clé USB à acheter. Évitez de donner des indices dans les messages, dans les commentaires des émissions, quoi. Parce que du coup, vous êtes sur la bonne piste. Et là, vous donnez la bonne piste à tout le monde. Donc, tout le monde va répondre comme vous. Et vous avez perdu votre avantage. Faut être stratégique. Taisez-vous. Ne dites rien en commentaire. Dites que vous nous adorez, que l'émission est géniale, que je chante super bien, que je parle très bien du pénis. Mais ne donnez pas d'indices sur la réponse du concours. Parce que
donnez pas vous pénalisez. Des occasions de vous faire battre.
Bon, ça nous arrange parce que nous on n'avait même pas la réponse. Maintenant on la connaît, ça va. Mais les autres aussi la connaissent.
Ah tiens, Fab qui...
Ah bon, c'est quoi la réponse?
Oui, Fab qui envoie ces fameux tweets, les tweets de Fab. On peut en faire des émissions complètes. Championnat de France, la France trust les médailles. C'est magique. Et justement, c'est l'occasion de vous dire que on est tous sur Twitter. Donc justement, sur le site savf1.fr, il y a les liens vers tous nos comptes Twitter. Il y a aussi le hashtag savf1.
Et le hashtag top position pour le concours.
Ah oui, c'est vrai.
Qui est beaucoup moins fréquent, mais qui vous permet le week-end d'avant de vous rappeler de la question.
En plus, là, c'est bien.
Surtout de voir le lot.
On peut dire, on a plus ou moins défini tous les lots. Oui. Voilà.
Alors, on vous donnera peut-être un peu plus de détails la semaine prochaine, mais on a défini tous les lots pour toute l'année, et sincèrement, il y a 2-3 grands prix où je sais que je vais devoir bien choisir. Et ce sera un honneur.
On vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur Podcast France, sur Pod Radio, sur iTunes.
Il y a eu un silence, j'allais répondre à la famille.
Bah, j'ai un doute aussi, figure-toi. Mais...
Parce que le SAV de la F1, c'est...
Gratuit.
Fanf1.com.
Pénis.
C'est tout ce que vous voulez, le SAV de la F1.
C'est peignant, pour employer l'adjectif.
Et n'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sûr...
Fanf1.com.
Là, vous auriez pu dire gratuit et tout ça, histoire de rester dans le truc. Allez. C'est vous avez un dernier petit mot, les gars, avant de se quitter?
Mot.
Camoulox.
Brouette.
Chacamou.
Ben.
Camoulox.
Soleil.
Soleil. Eh bien, écoutez, je dirais plastique. Hein, et je vous dis, bien évidemment, un bon week-end. Hein, c'est le Grand Prix.
Ça plane pour moi.
Non.
Ça plane pour moi.
Non. Trop chanté pendant cette émission.
T'as trop chanté.
T'as gâché ta gueule.
Eh oui, mais c'est le deuxième que je gagne en deux fois que je réponds une question.
Oui, mais à chaque fois, c'est à mes questions moi que tu réponds. Oui.
Bah, il faut arrêter de faire les questions, mon pauvre.
Mais oui, je vais arrêter.
Allez, on vous souhaite une bonne course à tous, bon week-end, et à la prochaine. Ciao.
Salut.
Ciao, ciao.
And it's lights out.